On va commencer, comme j'ai dit, notre deuxième cours Be'ezrat Hashem sur le deuxième chapitre de Igaret Hatshuva. Le point qu'on a expliqué principalement dans le premier chapitre de Igaret Hatshuva, c'est quoi ? On a expliqué que les gens pensent que la Teshuva, d'abord on a amené tout d'abord les trois catégories d'Averot qui peuvent exister. Donc on a une personne qui a transgressé une mitzvah positive, on a dit qu'il peut obtenir la Teshuva instantanément. Une personne qui a transgressé une mitzvah négative, on a dit dans ce cas-là, il peut obtenir une suspension jusqu'à Yom Kippour, et là Yom Kippour, la Teshuva fonctionnera. Et la troisième catégorie, c'est une personne qui a fait une avéra sur laquelle on est chayav karet, par exemple manger du chametz, ça fait ça, ou bien ne pas faire la brit mila. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit sur ces mitzvot-là? On a dit que sur ça, même Yom Kippour aide seulement à suspendre la punition, mais le vrai pardon sera uniquement par les souffrances et donc par la mort. Par la mort. Dans le cas de Hayaf Karet, par exemple, c'est par la mort. C'est ce qu'on a expliqué. D'accord ? Maintenant, tout ça, c'est une introduction. C'est une introduction pour expliquer trois catégories. Trois catégories de Averot. Maintenant, Admor HaZaken est rentré dans le vif du sujet de la mitzvah de la Teshuvah, dans chapitre 1. Il a dit que selon la Torah, c'est quoi la mitzvah de Teshuvah ? Selon la Torah, la mitzvah de la Teshuvah, c'est uniquement abandonner la faute. Décider de ne plus fauter. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est quoi la Teshuvah ? Pour faire teshuvah, il faut être un grand homme, il faut pleurer toute la journée, c'est pas n'importe qui fait teshuvah. Ça, les gens y pensent. Quelqu'un qui fait teshuvah, c'est quelqu'un qui pleure toute la journée, c'est quelqu'un qui comprend la gravité de ce qu'il a fait. Et que bon, tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, on peut pas faire teshuvah. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent. Et ils ont raison de penser comme ça. Parce qu'ils se disent, attends, pour faire teshuvah, il faut d'abord que je réalise la gravité de l'avéra. Et c'est là qu'on a expliqué que c'est une grande erreur. Si la Torah nous a demandé à tout le monde, la Torah demande à tout le monde de faire teshuvah, ça veut dire que la Torah c'est accessible à tout le monde. C'est quoi la teshuvah? Mina Torah, la teshuvah on a dit c'est uniquement le fait d'abandonner la faute, de décider de ne plus fauter. D'accord? C'est ni les jeunes, c'est rien de tout ça. Attention, on n'est pas en train de dire que ça n'existe pas. On expliquera après à quoi servent les jeunes, à quoi sert le tikkun, à quoi sert la tzedaka. On ne peut pas remettre en cause tout ce qui est écrit dans les livres. Chas v'shalom. On essaye simplement de définir c'est quoi la mitzvah de teshuvah. Donc dans le premier chapitre, on a expliqué que la mitzvah de Teshuvah, c'est quoi ? C'est uniquement le fait de décider de ne plus fauter. Par exemple, on avait donné l'exemple à Marie qui s'écroche avec sa femme. C'est pas qu'il dit « je te referai plus ça ». Il dit justement, il explique en général, il dit « je ne ferai plus quoi que ce soit qui puisse te faire de la peine ». Ça, c'est la Teshuvah. « Azivat achet » abandonner la faute, décider de ne plus fauter. Bon. Après, on est en train dans le chapitre 2, on a expliqué « mais tout ça, c'est uniquement... » Venez, on va relire dans les mots rapidement. On va relire dans les mots. Les quelques premières lignes, on l'a déjà lu la semaine dernière, mais on va les relire rapidement. Arkolzé, chapitre 2, Perek Bet, page 182. 182.
C'est pas la même chose.
Si, 182. Alors, je vais aller un peu vite parce que le début, on l'a déjà fait. Arkolzé, Leinyan Kapara Umchilat Avod. Tout ce qu'on a expliqué, c'est uniquement tout ce qu'on a expliqué qu'il suffit qu'une personne décide de ne plus refauter, Akadosh Baruch Hu lui pardonne, c'est fini, il a eu la teshuvah. Hein. Tout ça, c'est uniquement pour se faire pardonner. Chez Nimchalo le Gabre Machavar Mizatameler, que si une personne a décidé de ne plus refauter, et que Rosh Hashanah, Yom Kippour, ou bien pendant Aseret Metshuvah, il a été sincère, et il a dit, Dieu, je ne recommencerai plus. Que là, quand on dit qu'on lui pardonne, c'est-à-dire qu'on lui pardonne, c'est pas on dit bon, on t'en parle plus, on attend en haut que tu arrives en haut et en haut on va te faire la fête. Non. Quand on dit qu'on lui parle plus, ça veut dire comme il dit ici, Ve'en maskirin lo davar vachati davar, ve'yamadin lo nshoalze. Ça veut dire que le jour du jugement, même quand il montera en haut, on lui parlera pas du tout, d'accord? Ni par allusion, ni directement. Donc davar, c'est quand c'est direct, et chati davar, une demi-chose, c'est quand on fait une allusion, on lui fait comprendre. Il dit bon, on te dit rien, mais tu sais. D'accord? Ça s'appelle Khati Davar. Donc on lui fera pas ni une allusion, ni une demi-allusion sur ce qu'il a fait. Rien. On lui dira rien du tout. Ve niftar le gamre. Donc l'oncho chasve shalom baolamaba. Ve niftar le gamre menadin baolamaba. Tu dis attention. Tout ce qu'on a expliqué, on a dit clairement que lorsqu'une personne fait teshuva, on accepte cette teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est le fait de décider de ne plus refauter. Azivat achet. Une personne comme ça arrive Rosh Hashanah. S'il a fait des bonnes klichot dans le mois d'Eloul, il a décidé de plus recommencer. Arrive Rosh Hashanah, arrive Yom Kippour, il va monter après 120 ans en haut, on lui rappellera pas du tout ce qu'il a fait. Cependant, c'était soldé, voilà. On fait comme si qu'il n'a jamais fait d'Avera. Mais, c'est ça le problème, ça ne veut pas dire qu'il en a pas fait. C'est ça le problème. Ça veut dire, on fait comme si qu'il n'a pas fait, on ne le dira rien. D'accord ? On fait comme si qu'il n'a rien fait, mais il reste une trace.
C'est rétroactif ?
D'accord ?
C'est-à-dire que si après Rosh Hashanah, bien qu'il ait été sincère, après il refait la même faute.
Ça change pas.
Est-ce que c'est rétroactif?
Non, là, on disons que la personne a fait une vraie teshuva. Au moment où il a fait une vraie teshuva, c'est un tzadik à ce moment-là.
D'accord.
Alors ça veut dire quoi, vraie teshuva? Vraie teshuva, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il va arriver en haut. Imaginons que à ce moment-là même, il arrive au ciel. On ne lui parle pas de tout ce qu'il a fait. Mais on ne lui parle pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait.
Oui.
D'accord? On ne lui parle pas, ça veut dire que on va pas lui reprocher, on va pas lui en tenir rigueur. On va pas lui en parler. On va faire comme si de rien n'était. Mais il a quand même fait un dégât.
Il y a une mitzvah qui est impossible de faire, c'est d'étudier la Torah à chaque instant. Dès qu'on a un instant libre, on devrait étudier la Torah. C'est impossible si on de faire teshuva sur ça.
Attends, seconde. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer ta question. D'abord, il y a un moment dans la journée où on doit travailler, puisque c'est la Torah qui nous demande de travailler. Oui. Après, une personne qui travaille, il y a un moment où il doit se reposer. Parce que sinon, il ne peut pas travailler. Après, il y a un moment où il doit s'occuper de ses enfants. D'accord ? Donc, c'est pour ça que la Torah demande d'étudier avec quelqu'un qui est à la porte.
En dehors de ce moment-là.
Perek Echad Shacharit, Perek Echad Arvit. Étudier au minimum un peu le matin, un peu le soir. Ça, encore une fois, ça, c'est un des pièges du Yetzirah. Tu comprends ? Le Yetzirah, il m'a dit de toutes les façons, tu peux faire la mitzvah, alors laisse tomber. Ça, il dit, c'est un piège. C'est un gros piège.
Étudier seul, c'est compté comme une étude.
Bien sûr.
Faire un kechachachit.
Après, bien sûr, tu as raison que des fois on peut perdre du temps et c'est pas bien de perdre du temps. Mais bon, décider de moins, c'est possible, c'est faisable. Décider de productif, c'est faisable. Encore une fois, teshuva, ça veut pas dire que je vais devenir un tzaddik. Ça veut pas dire ça. Teshuva, ça veut dire décider de m'améliorer. Décider que dorénavant, ce sera plus comme avant. Ça, c'est la teshuva.
Si on prend sur nous une résolution le jour de Rosh Hashanah, on prend une résolution.
On a les forces, oui. On a les forces pour la faire. Alors, justement, mais c'est là la question. Donc, il a fait teshuva. On a accepté cette teshuva. Donc, on lui en parle plus. C'est-à-dire que quand Dieu va faire le bilan de ses actions, on dit, on n'a pas vu ce qu'il a fait. D'accord, on n'a pas vu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Comme on a expliqué la semaine dernière, ça veut dire que ça laisse une trace. Et cette trace, ça nous dérange. Pas par rapport au din. Là, encore une fois, vous comprenez. Pas par rapport au din. C'est-à-dire que celui pour qui Rosh Hashanah et qui pour c'est uniquement le din, uniquement le jugement, est-ce qu'on va avoir une bonne année ou pas une bonne année, on dit, ok, une personne comme ça, il suffit qu'il ait décidé sincèrement de ne plus recommencer, c'est fini, il a son Rosh Hashanah et qui pour garanti. Sauf qu'on a expliqué la semaine dernière, qu'on explique dans la Chassidout que, surtout dans le cours de Shabbat matin, que Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr que c'est ça, c'est le Yom HaDin. Après, c'est la cour de... Enfin, c'est pas la cour de cassation. On fait appel à Yom Kippour, d'accord ? Et Rosh Hashanah Rabba, cour de cassation. Bien sûr, d'accord ? Mais c'est beaucoup plus que ça. Rosh Hashanah Kippour, c'est un moment dans lequel on s'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est un moment dans lequel on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on a envie de montrer qu'il est notre roi. Et donc, si on fait une Avera, on a fait une Avera et qu'on a décidé de ne plus recommencer, même si on nous dit qu'on t'en tiendra plus rigueur, ça veut dire que en ce qui concerne le Din, le Yom HaDin, t'auras une bonne année, mais ça me dérange toujours. Ça me dérange toujours. Pourquoi ça me dérange toujours? Parce que ça me dérange d'avoir fait quelque chose, d'avoir laissé du mal dans l'air. Même si on m'en parlera plus, j'ai fait quand même du mal. J'ai envie de le réparer. Ma conscience n'est pas tranquille. Ça veut dire que, en fait, ce qu'on va expliquer dans le chapitre 2, si on peut en résumer en un mot, dans le chapitre 1, on a parlé de la teshuva à proprement parler. Et dans le chapitre 2, on va parler de la conscience que la personne va avoir après la teshuva. Une fois qu'il a déjà fait teshuva, hein. Alors, il va avoir la conscience tranquille. On va prendre un exemple. Imaginez-vous quelqu'un, à 25 ans, il fait teshuva. D'accord, à 25 ans, 30 ans, il fait teshuva. Il s'interroge sur ce qu'il a fait, il décide, dorénavant, il faut que je me comporte bien. Est-ce que cette teshuva est une teshuva cachère? Oui. Puisqu'il a décidé de bien se comporter. Donc, quand il arrivera au Yom HaDin, quand il arrivera en haut, on lui parlera pas de ce qu'il a fait ces 30 premières années. On ne dira rien. C'est comme si que ça n'a jamais existé. D'accord? S'il a décidé sincèrement de se mettre... Ça marche. S'il a décidé sincèrement, d'accord, il a dit, dorénavant, je fais teshuva. Ça va prendre du temps, mais je suis sur la voie, je veux faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. On lui parlera pas de tout ce qu'il a fait pendant ces 30 premières années. Bon, mais ça change pas.
Il a fait ça,
qu'après, il a sa conscience qui le dérange, parce qu'il a quand même fait. Ouais. Il a sa conscience qui le dérange. Et c'est pas seulement la conscience qui le dérange, c'est qu'il a laissé une trace. On lui en parlera plus, mais il y a une trace, il a fait quelque chose. C'est pour ça hein, que vont venir tous les jeûnes qu'on va expliquer. Les jeûnes, la tzedaka, le korbanot, etc. C'est uniquement pour la conscience. Pour avoir la conscience tranquille. Et c'est sans fin. Comme il dit le roi David dans le psaume 51, le psaume par excellence de la Teshuvah, il dit « Vechatati nagitamid ». Il dit « Ma faute est toujours devant moi ». On avait expliqué dans l'un des premiers chapitres de Tania, on avait expliqué que pourquoi sa faute est toujours devant lui. Ça y est, il a fait Teshuvah. Parce que il a fait Teshuvah, ça y est, on lui a pardonné. Mais sa conscience, ça le dérange toujours, parce qu'il sait qu'il a créé un mal dans le monde. Donc il va faire Teshuvah, à un certain niveau. Mais après, avec le temps, il avance, il monte un niveau encore plus haut. Et là, il comprend encore autrement l'impact de ce qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on fait une bêtise, on a 15 ans. D'accord, j'ai fait une bêtise, j'avais 15 ans. Ben, je réalise ce que je réalise à l'âge de 15 ans. Mais après, plus j'avance dans les années, on le voit clairement, même dans la vie de tous les jours, plus j'avance dans les années, et plus je réalise la gravité de ce que j'ai fait. Plus on avance, et plus on réalise, parce qu'on a plus d'expérience, on a vu plus de choses, on comprend plus de choses. Et si c'est valable matériellement, c'est valable également spirituellement.
Si vous pouvez suivre avec nous, avec un appel.
Si c'est valable matériellement, c'est valable également spirituellement. Que de la même manière, le roi David il dit que, par rapport à la conscience, je ressens toujours ma avéra. C'est par rapport à ça hein, qu'on aura différents tikkuns qui ont été instaurés. Mais c'est pas ça la teshuvah. Comme on a expliqué la semaine dernière, la teshuvah peut être en un instant. Ça peut être une fraction de seconde. Une personne décide de devenir meilleure, c'est fini, elle a fait teshuvah. Omnam, cependant, vous avez Omnam. Chez Yé, quatrième ligne du deuxième chapitre. Omnam, cependant, page 182. Chez Yé, les ratson, l'ifne Hachem, ou meroutse, vechali, le fana, vitbarek, kodem, achet. Si la personne veut être acceptée devant Dieu, veut être chérie aux yeux de Dieu, comme avant la faute, liot, nachat, ruach, l'économe, avodato. Il veut que Dieu ait un plaisir de lui. Il veut que Dieu soit content. Je le vois. Alors, ayat, sarich, la vie, korbanola, filom, tatate, kalash, anba, karat, tatat, bedin. À l'époque du Batamikdash, on aurait dû amener un sacrifice, même sur une avéra qui nous paraît légère. Même sur ça, on aurait dû amener un sacrifice. Pourquoi? Que Moshe d'Archou, Gravotenu, Zichonel, Vecha, Vetorat, Konim, Alpasuk, Venir, Tsalo, Kdeitab, Kurekam, Begmara, Perekaman, Ezvachin, Doalam, Chaperet, Anuzetase. Bon, c'est les références. On avait expliqué la semaine hier. L'Achar, Shasa, Teshuva, Venimchal, Alaonesh. Là, il ramène la référence de la Gmara Zvachim qui dit que le Korban peut intervenir uniquement une fois que la personne a déjà fait Teshuva. D'accord? Ça, c'est une des bases que Maïmonide explique dans le guide des égarés. Il dit, les gens, ils pensent qu'à l'époque du Beth Amikdash, lorsqu'on amenait un sacrifice, ça y est, je paye, je suis pardonné, c'est fini. Pas du tout. Lorsqu'on amenait le sacrifice, c'était uniquement une fois qu'on avait déjà fait Teshuvah. Et d'ailleurs, c'est une question que le Kohen, à la personne qui se faisait pardonner, il lui disait, monsieur, est-ce que vous avez déjà fait Teshuvah? Et s'il dit, non, je suis venu pour ça, il dit, non, monsieur, d'abord vous faites Teshuvah.
Le Korban est complémentaire.
Le Korban est complémentaire. Ça, on l'a déjà fait la semaine dernière. Alors, j'ai encore deux lignes qu'on a fait la semaine dernière, après on rentre cette semaine. Ouché Adam, chez Sarar Bemeler, comme un homme, chez Sarar Bemeler, qui a fauté contre le roi, ou Fiso Ayede Prakutin, et qui a réussi à calmer le roi par des intermédiaires, ou Machallo, que le roi lui a pardonné, Afal Piken, quand même, Chole Ardoron, ou Mincha Lefanaf, chez Hidratselo Lirot Nameler. Il va quand même envoyer un cadeau devant le roi, pourquoi? Comme ça, la prochaine fois qu'il verra le roi, le roi, c'est pas seulement qu'il lui frappe à la tête, il veut que le roi lui fasse un sourire. Voilà, on peut devenir ça comme ça, il y a ne pas faire la tête, et à faire un sourire. Et écoute, je te dis rien, je t'en parle pas, mais passe ta route. D'accord? Sois tranquille, je veux pas te voir maintenant. Alors nous, on a envie que Kadosh Baruch Hu ait envie de nous voir. D'accord? C'est une manière de parler. Donc, c'est pour ça qu'on va envoyer un korban. Et c'est pour ça qu'on va venir tous les tikkunim de Teshuvah qu'on a fait, pour montrer à Kadosh Baruch Hu que ça nous dérange ce qu'on a fait. Et quand on montre à Kadosh Baruch Hu que ça nous dérange ce qu'on a fait, alors là, Kadosh Baruch Hu, il va dire, bon, ça va, non seulement que je fais comme si de rien n'était, mais vraiment, comme, je considère que rien ne s'est passé. D'ailleurs, on expliquera après la notion de tikkun. Tikkun en hébreu, ça veut dire quoi? C'est quoi un tikkun? Tikkun,
réparation.
C'est la traduction de réparation. D'accord? Ça veut dire qu'avec un tikkun, on peut réparer le dégât qu'on a fait. Mais c'est pas ça, la teshuvah.
C'est plus loin qu'un teshuvah, là.
Oui, c'est complémentaire à la teshuvah.
Une conséquence.
D'accord. Non, c'est pas une conséquence, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. La teshuvah, c'est décider de bien me comporter, et ça c'est la raison de la teshuvah, décider que dorénavant je me comporte bien, même si ça prendra du temps, mais décider de bien me comporter. Alors que le reste, les jeûnes, etc., c'est seulement pour avoir la conscience tranquille. Donc c'est une réparation du dommage que j'ai fait, mais je suis pas obligé de le faire.
Est-ce qu'on peut faire une teshuvah sur Korban?
Bien sûr.
On peut la faire?
Oui.
C'est impossible.
Si?
Tu peux pas faire une teshuvah et ne pas regretter ta faute et ne pas vouloir...
C'est pas pour autant. D'ailleurs, je vais te dire plus que ça. Au moment où une personne est en train de faire teshuvah, on lui interdit de penser à son passé. Parce que sinon, jamais il fera teshuvah. On lui interdit. Au moment où une personne fait teshuvah, il n'a pas le droit, mais il n'a pas le droit au moment même de réfléchir à son passé. Il doit réfléchir seulement au futur. Ça, c'est la notion de qu'on a expliqué dans Perek Aleph, dans chapitre 1.
Et au moment. D'accord. Et après la teshuvah.
Ah, après. C'est seulement
est-ce
après.
Est-ce qu'il peut ne D'accord. pas y avoir de korban?
Il peut. Mais théoriquement, oui. D'accord, mais techniquement, la Torah nous a donné la possibilité de le faire, on doit le faire. C'est sûr qu'on doit le faire. Mais c'est pas ça la teshuvah, ça ne change pas. C'est pas ça la teshuvah. Encore une fois, je répète, au moment où une personne fait teshuvah, c'est pas le moment de réfléchir au averot qu'il a fait. C'est pas le moment. C'est pas le moment de réfléchir au averot qu'il a fait, parce que s'il réfléchit au averot qu'il a fait, jamais, il prendra le temps de, jamais il prendra le temps d'aller vers l'avant.
Pourquoi?
D'accord? Ah, Yom Kippour. D'accord. Seconde. Yom Kippour. Ouais, par rapport à Yom Kippour, puisqu'on arrive à Yom Kippour, c'est écrit que la veille de Yom Kippour, c'est Harata Aleavar, je vais traduire, et le jour de Yom Kippour, c'est Kabbalah Aleaba. Ça veut dire, la veille de Yom Kippour, on doit regretter sur le passé. C'est-à-dire que là, c'est un moment qui a été fixé par les Chachamim, le Halchet, etc. et tout, dans lequel on va regretter sur le passé, mais c'est écrit que le jour de Yom Kippour, on doit déjà être en train de penser au futur.
C'est pour ça que l'Halchet, on le fait à Mincha.
D'accord. On le fait aussi. Attention, on le fait aussi à l'Halchet pendant Yom Kippour. On le fait aussi. Mais on voit que de manière générale, la veille de Yom Kippour, c'est un moment qui est beaucoup plus triste, si on peut dire, c'est un moment qui est beaucoup plus solennel, alors que le jour de Yom Kippour, c'est un jour dans lequel il y a plus de simcha. Dans lequel on je dis pas qu'on, bien sûr qu'on mange, d'accord? On mange pas, pardon. Mais on voit, on va vers l'avant. Charata le'ava, Kabbalah le'aba. La veille de Yom Kippour, et surtout à Mincha David de Yom Kippour, c'est le moment dans lequel on fait le bilan de ce qu'on a pu faire. Mais après, le jour de Yom Kippour, c'est fini, il faut plus penser, il faut aller vers l'avant. Il faut essayer d'avancer, parce que sinon, jamais on fera teshuva. Personne ne fera teshuva sinon. Si à chaque fois on va se mettre à ressasser le passé et à réfléchir ce que j'ai fait, jamais je ferai teshuva. Je dis, attends, t'as vu ce que j'ai fait, moi? Impossible de faire teshuva. C'est pour ça qu'une personne qui fait teshuva, on lui dit, ne réfléchis pas à ton passé, avance!
Comment ne pas réfléchir si on décide de ne pas faire ça? Donc, rien que de décider de ne pas faire ça, de ne pas faire quoi?
Et c'est là, encore une fois, on a expliqué dans Perek Aleph,
aux erreurs qu'on a fait,
c'est pour ça qu'on a expliqué, je répète, c'est pour ça qu'on a expliqué dans Perek, dans chapitre 1 de Guéret Teshuva, que teshuva, ça veut pas dire je ne refais plus 7 avéra. C'est pas, parce que ça, c'est déjà une manière négative de voir la chose. Teshuva, c'est je décide que dorénavant, je ferai ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Sans rentrer dans les détails. Et ça, c'est déjà la teshuva. Alors, comme j'ai dit il y a deux semaines, d'un côté c'est très facile, d'un côté c'est très dur. Ça nous a l'air très facile, oui, c'est facile, il n'y a pas besoin de réfléchir à chaque avéra séparément. Mais d'un autre côté, on peut très facilement faire teshuva sur une avéra, mais pas avoir fait teshuva sur la généralité que comment c'est possible que j'ai pu faire contre la volonté de Dieu. C'est possible qu'on n'ait même pas réfléchi à ça. On peut avoir pensé à l'avéra spécifique alors que c'est pas ça la teshuva. La teshuva n'est pas dire je ne ferai plus cette avéra spécifique. La teshuva c'est décider je ne manquerai plus de respect à Kadosh Baruch Hu. Donc je reviens à un autre sujet. Une personne qui a fauté contre le roi, il lui a pardonné. Ça y est, on t'en parle plus, c'est fini. Bon, mais ça me dérange quand même. Pourquoi ça me dérange? Ma conscience n'est pas tranquille puisque je sais que ça reste dans l'air. Parce que ce que j'ai fait, ça reste dans l'air. On va plus m'en parler, mais ça reste dans l'air. Alors c'est pour ça que qu'est-ce que je lui ai envoyé? Je lui ai envoyé un cadeau. J'ai envoyé un cadeau au roi. Un cadeau, c'est une manière de dire j'ai envie vraiment que ça reste même pas dans l'air, même pas en suspens. Je veux même pas que ça soit dans la tête du roi quand je veux passer devant le roi. Alors il explique entre parenthèses. Il dit Velashon Mechaperet. On voit bien que la Mishnah, la Braïta qu'on avait vue dans le traité Yoma, avait employé le terme Mechaperet. Le pardon. Chapara. Kippour. C'est quoi Chapara? Kippour. Il dit, V'chen, ma shekatu batorah, v'nirtsalo lechaper alav, enzo kaparat nafsho, ela lechaper lifne Hashem. C'est un point très important. Il dit, quand on lit dans le Chumash Vaikra, tous les différents sacrifices qui ont été instaurés. Dans le Chumash Vaikra, on nous dit par exemple une personne qui a fauté, il a mis un korban de ratat, v'nirtsalo lechaper alav, et Dieu acceptera lechaper alav. Comment on traduit lechaper? Pour se faire pardonner. Ah! C'est-à-dire que le korban sert à se faire pardonner. Rav Morazaken ne dit pas du tout. D'accord? Et ça, c'est la Gemara, en fait. Rav Morazaken ne fait que ramener ce que dit la Gemara Svarim. Que c'est pas ça le sens. Que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre dans le passage. Quand on dit venir salo le chaper alav, quand on dit que Dieu va lui pardonner, ça veut pas dire qu'il faut le korban pour être pardonné. Ça veut pas dire que pour que son âme soit pardonnée, il y a besoin du korban. Non! pour que son âme soit pardonnée, il faut uniquement la teshuva. Alors, pourquoi la Torah emploie le terme l'échaper, pardonner? L'échaper, ça veut dire l'échaper l'ifni Hachem, comme explique Agmara Svarim, que devant Dieu il soit pardonné, ça veut dire que même dans les airs, il n'y a plus de trace de ce qu'il a fait. Mais encore une fois, la vera qu'il a fait en faisant teshuva, en testant de tout recommencer, ça y est, c'est pardonné. Ou que Moshe Katouv, comme c'est écrit, tamim yé l'eratson. Il y a une phrase qui dit dans là-bas, dans le, à la fin du Chumash Vayikra, qui dit que à quoi il sert le sacrifice? Le sacrifice, il sert à tamim yé l'eratson, à redevenir intègre et accepté devant Dieu. Ça veut dire quoi, intègre et accepté devant Dieu? Exactement ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que des fois, on peut faire teshuva, Dieu il t'en parle plus. Bon, on a mis une femme, il n'en parle plus. Mais il n'y a plus la même intégrité qu'au début du mariage. La même intégrité, la même simplicité qu'au début du mariage. Maintenant, c'est plus compliqué. Il y a des détails. T'as fait ci, t'as fait ça. J'en parle pas, mais t'as fait ci, t'as fait ça.
Malgré tout, il y a une trace.
D'accord. Il y a une trace. C'est plus clean comme avant.
D'accord.
Non, même si ça ne tombera pas. Non, attention. Sinon, c'est pas une teshuva.
C'est pas
ça retombe pas. Disons que ça retombe pas. Mais c'est pas clean comme avant. C'est pas propre comme au début du mariage. Il y a rien. D'accord. Il y a du passé. D'accord. Avec du passif,
il y a du non-dit.
Il y a du non-dit, il y a des choses. Bon, c'est pas comme avant. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas dans la paracha est mort? Il dit à quoi il sert un sacrifice? Il dit tamim yé l'eraton. C'est pour être intègre devant Dieu, d'accord? Et pour être accepté devant Akadosh Baruch Hu. Et demander à Akadosh Baruch Hu, fais comme si de rien n'était, j'ai envie de recommencer le mariage à zéro. Voilà, c'est aujourd'hui on s'est marié. Et c'est ça le sens de kapara. Encore une fois. D'accord, juste deux secondes. Encore une fois. Kapara dans le Chumash Vaikra, ça veut pas dire que le korban sert à se faire pardonner, parce que c'est faux. Pardonner, on se fait pardonner par la teshuva. Kapara ici, ça veut dire comme il dit ici, les chaper nafsho lifnei Hashem. Ça veut dire que être clean, les chaper, on avait expliqué avant ça, nettoyer, être nettoyé devant un Kadosh Baruch Hu, que je fasse plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est à ça qui sert le korban. Mais la teshuva, c'est pas ça. Une question, d'accord.
Oui. Tu dis que la teshuva elle pardonne.
Oui.
Mais on avait vu il y a 15 jours qu'il y avait certains catégories de fautes où c'était Issourine et Kippour, oui. Et d'autres où c'était Raya Mita.
Bien sûr. Là, je parle des fautes qui peuvent se faire pardonner par.
D'accord.
Bien sûr, oui.
Parce que le reste.
Évidemment. Bien sûr. Et là, ce que je veux dire, c'est que même dans la Vérode, que l'Agmara a dit là-bas, l'Agmara, donc on avait trois catégories. Disons, une personne a transgressé une mitzvah positive. Il a oublié de mettre de filine un jour. Ça fait shalom. Il a oublié de mettre de filine un jour. Oui, c'est une opposite. Donc normalement, qu'est-ce qu'on a dit? Comment il fait teshuva? C'est instantané. Il dit sincèrement, ça lui fait de la peine. Il dit, comment j'ai pu oublier les téfilines? C'est très grave. Dorénavant, plus jamais je manquerai de respect à Kadosh Baruch. Comment j'ai pu oublier de mettre les téfilines? D'accord? C'est fini, il a fait teshuva. On lui a donné la teshuva. C'est instantané. Pas, d'accord, mais...
Non, c'est pas ça.
Mais, si.
Comment j'ai pu fauter envers Hachem? Dorénavant, je ne fauterai jamais envers Hachem.
Voilà. Ce que je dis, comment j'ai pu manquer de respect à Hachem en ne pas mettant les téfilines, oui. Mais sans même rentrer dans les détails. Donc. Très bien. Donc, je regrette d'avoir manqué du respect à Kadosh Baruch. Très bien, il a fait teshuva. Accordé à la Makom sur place instantanée. D'accord? Très bien. Non, le problème, c'est quoi? C'est que quand même, dans les airs, ça reste une trace de ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'il va amener un korban. On amène un korban.
D'accord.
Quel korban? Quel korban on a amené? Quel korban on a amené? Rola.
Oui, korban Rola.
Si on avait transgressé une mitzvah négative, on a amené un korban khatat. Quand on avait transgressé une mitzvah positive, on amenait un korban Ola. D'accord? On n'était pas obligé. Ola, c'était pas obligé. Ola, ça pouvait être aussi quelqu'un qui voulait rentrer
remercier. Au présent.
Non, pas remercier, c'est Toda.
Toda.
Ola, ça pouvait être quelqu'un qui voulait donner un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il voulait donner un... Il pouvait le faire aussi. Mais de manière générale, Ola, ça se faisait suite à une faute positive. Une mitzvah positive.
D'accord. Quelle est la situation de la personne qui veut faire teshuva? Et par exemple, qu'a transgressé des commandements positifs et négatifs,
ouais.
Ou t'es Rayal Keret ou Rayal Mita.
Oui.
Quelle est sa situation?
Sa situation, c'est que sur ces avérotes-là, il ne pourra pas se faire pardonner tant qu'il ne meurt pas.
Et une fois qu'il meurt?
Une fois qu'il meurt, sa mort, c'est son pardon.
Et
attention. Il faut d'abord être sûr
que ces avérotes...
Voilà. Deux secondes, sûrement. Il faut d'abord être sûr que ces avérotes ont été faites de manière préméditée. Il savait que c'était interdit.
Oui.
Il savait que c'était interdit.
Non, il le fait.
C'est-à-dire qu'il est né dans la religion, il comprend la gravité, et qu'il a fait exprès de le faire. C'est très grave hein, d'être Hayav Karet. C'est pas rien d'être Hayav Karet.
Il
faut être averti. Non, averti c'est pour Hayav Mita. Et pour être Hayav Karet, il faut au moins être au courant. Il faut être parfaitement conscient quand on fait la Avera.
C'est spécial ça.
Ah oui.
Mais tu dis que quand il meurt, il est pardonné.
Oui.
Ça, comme chaque homme doit mourir.
Non, mais il meurt avant tout le monde. Il meurt avant 60 ans.
Pourquoi être conscient?
Et s'il si vit à plus de
60 ans... Ça veut dire savoir que c'est pas bien,
il sait qu'il a pas le
faire avec toute sa tête.
Non, il n'était pas raillé. Savoir que c'est pas bien, mais à quel point c'est pas bien.
À quel point? C'est pour ça que je dis que c'est très difficile de raillé carré.
Ils font des trucs, ils font raillé carré et qu'il n'est plus de 60 ans. Alors il y a bien ces gens-là.
Non, savoir que c'est interdit. C'est même dans la religion, qui sait que c'est interdit?
Mais qui est Khayyab Karet, il meurt avant. Moi,
par exemple, imagine-toi, quelqu'un qui est né dans la religion depuis qu'il est petit. Je vais donner un exemple classique. Quelqu'un qui est né dans la religion, il sait depuis qu'il est petit qu'on ne mange pas de ramen, ça fait ça. Oui. Et un jour, à 30 ans, comme ça il vient, il a envie de se faire un kiff, il rentre chez McDonald's, il prend un bon hamburger, plein de pétard. Il sait que c'est azur maintenant.
Affiche,
d'accord.
Avec le.
La totale, tant qu'à faire, il fait la totale. Hein?
Ça peut être alors, une des raisons
pour lesquelles il est repoussé. Ça fait sur ça on rêve carrément.
Mais au final.
Alors, mais sachez que nous avons en galoute, en exil, depuis que le bâtiment d'âge a été détruit, c'est pas qu'il n'y a plus. Il y a toujours, mais on n'a plus la chance de mourir avant 60 ans pour ça.
On n'a plus la chance.
Alors,
donc on va vivre plus de 60 ans et donc on n'est plus pardonné.
On sera pardonné à la fin. Mais avant. Ils avaient une chance qu'on ne dépassait pas 60 ans et c'était un tikkun particulier. On n'a plus la chance d'avoir ce tikkun. Bon. Quoi qu'il en soit, je reviens au point où on est.
Après avoir fait ça, il a fait tchouva.
Oui, encore une fois. Il a fait tchouva. Et fait tchouva sur quoi? Sur quoi? Sur le cheeseburger qu'il a mangé? Très bien. Mais, très bien. C'est la même question que tu poses. Sauf qu'on a expliqué que la tchouva sur la avérot sur lesquelles on est réaffirmait ne peut être validée.
Non.
Seulement par la mort ou par les souffrances.
Et un raccourci aussi.
Elle peut être, ça veut dire qu'elle suspend la punition, mais elle peut être validée que par la mort ou par les souffrances. Donc, pour simplifier les choses, on va pas parler de Averot. On va pas parler de Averot. On va parler d'Averot classique. De la majorité d'Averot. Ça veut dire qu'on a mitzvot positives, mitzvot négatives, mais pas des Averot très graves comme manger du Hametz, la Mila, etc. C'est-à-dire, d'ailleurs, la majorité de Averot, les gens ne transgressent pas. Ouais, c'est pas compliqué. Je veux savoir, prends l'Averot que la majorité des gens, même ceux qui respectent très peu, savent en fait, ils font attention.
Il y a même des Averot qui...
Ça, c'est Khayyab Karet.
C'est encore pire.
Il y
a des Averot où il n'y a pas de choix possible.
Aucune Averot, il n'y a pas de choix possible.
Si, quand on entraîne, j'ai entendu que quand on entraîne les autres. Quand quelqu'un, il entraîne, non, il entraîne les autres à la faute. Par exemple, il entraîne les autres à la faute d'Azara.
Il expliquera après l'Admor HaZaken. Non, c'est écrit, attention. On y arrivera, mais il ne faut pas qu'on s'écarte du sujet. C'est écrit que celui qui fait fauter les autres, ou bien celui qui dit je faute et je ferai teshuva. C'est-à-dire qu'il faute en comptant sur la teshuva. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas écrit qu'il ne peut pas faire teshuva.
Kadosh Baruch Hu ne lui donne pas le...
C'est écrit En maspikin beyado la sol teshuva. On ne le laisse pas faire teshuva. On ne lui donne pas l'occasion. Mais comme on avait expliqué dans le chapitre, je crois que c'était 43, Dachak ben Ichnas, s'il pousse et rentre, il pousse la porte et rentre, il peut rentrer. On a vu des gens qui ont forcé, ils sont rentrés. Mais c'est dur. Il aura les bâtons dans les roues, grave. Il sera pris dans son cercle vicieux. Mais s'il veut, il peut.
Même celui qui entraîne, on m'a toujours dit que celui qui entraîne les autres, parce que comme les autres, on n'est pas sûr qu'eux ont fait teshuva de leur faute,
oui.
Celui qui les a entraînés à faire la faute ne peut pas être pardonné. Parce qu'il y a un
chapitre 5, oui. El Maspikin Biyado, El Maspikin, oui. On le laisse pas faire teshuva. Mais s'il veut, il peut. En Davar Mamad Ifnaratan, on avait dit, il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté. Personne qui veut faire teshuva, il n'y a rien qui peut tenir devant sa volonté. Alors, on revient à un autre sujet. Donc, à quoi sert le Corban? Le Corban, à l'époque du Beth Amikdash, servait à être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme avant. Qui c'est qui avait dit le bouquet de fleurs? C'est Julien qui avait dit le bouquet de fleurs, c'est Nania? Ah, d'accord. Bon, donc c'est le bouquet de fleurs. Très bien. Non, Be'archav, aujourd'hui, Sh'en lanou Corban, la fille Gratzon, Me'achem. Maintenant qu'aujourd'hui, on n'a pas le Corban. Si, le Corban, apparemment, est très très important. Parce que, le fait qu'on t'en reparle pas, c'est une chose, mais moi je veux pas qu'on en reparle pas, moi je veux que ce soit comme avant. Imaginez face à Kadosh Baruch Hu, si je suis pas comme avant, si il a pas envie de me voir, il a pas envie de moi. Alors à l'époque il y avait le Corban. Maintenant, aujourd'hui qu'on n'a pas le Corban, comment on fait? Il n'y a plus le Corban. Alors, c'est pour ça que la Gemara a brachot elle dit au début et dit Ata'anit ibim kom Corban. Aujourd'hui, le jeûne remplace le Corban. Quel rapport entre le jeûne et le Corban? Ukmo shenema bigmara. Comme c'est écrit dans la Gemara Brachot, page 17, c'est écrit au début de la Gemara Brachot, qu'une personne qui jeûne, il doit prier intérieurement, et il doit dire, Sheyem miout chelbi vedami shenitmaet, que le fait que quand on a mangé, bah, obligatoirement, j'ai automatiquement, j'ai diminué ma graisse, j'ai diminué du sang. Quand, puisque j'ai moins de graisse maintenant. Le fait qu'on n'a pas mangé, j'ai moins de graisse, j'ai maigri sur la balance. Donc je dis à Kadosh Baruch Hu que la graisse que j'ai perdue, c'est pas un régime, hein. La graisse que j'ai perdue, Keilu et Krafti les Faner, que ce soit comme si que j'ai sacrifié quelque chose devant toi, Kadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, explique le Ramban au début de la Parasha Vaikra. Le Ramban au début de la Parasha Vaikra, il dit que quand une personne fait un jeûne, il doit avoir la kavana au moment du jeûne, comme si qu'on était en train de lui faire tout ce qu'on faisait à l'animal auquel on sacrifiait devant Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est vraiment un sacrifice qu'on est en train de donner à Kadosh Baruch Hu. On parle bien ici d'un sacrifice. Donc, bon, il n'y a pas de mitzvah de souffrir pendant le jeûne, mais moi, quand j'entends parler des fois des différents cachets ou des lamalines, des trucs comme ça, qui, pour passer les jeûnes plus facilement, je sais pas, moi je dis a priori, le concept du jeûne, c'est au contraire, il faut faire une item, mais d'un il y a un concept de souffrance. D'accord? Bien sûr, si une personne ne tient pas. Mais si une personne arrive à tenir un jeûne normalement, il y a un concept de souffrance.
Si une personne tient trop.
Il s'est fait exprès, hein?
Si une personne tient trop, elle fout de pas manger.
Ah, non, mais 26 heures, non. 26 heures, t'en fous pas. C'est pour ça que le Neila a été mis juste à la fin. Au moment dans lequel on a vraiment sacrifié, au moment dans lequel on a donné beaucoup de son matériel. Et c'est là, à ce moment-là, que le spirituel, il prend le dessus. Et d'ailleurs, on le voit dans le Yom Kippour. Plus on avance sur Yom Kippour, et plus on voit que le spirituel, il prend le dessus. Bien sûr, l'entrée de Yom Kippour, c'est l'entrée de Yom Kippour. Mais après, pourquoi, hein?
Neïda, c'est bientôt la sortie, donc le
matériel,
il y a une chose.
Non,
au contraire. Mais pourquoi? Comment ça se fait? C'est pas logique, c'est le moment où ils ont le plus faim. Comment c'est possible?
Non, c'est bientôt en mort.
D'accord. Bientôt mange.
Ben oui. Non. T'es content? Si, quand même.
Bientôt fini.
Moi, je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé que pendant l'année là, je pense au verre de coca qui m'attend.
Tu manges pas, toi. Moi, des fois,
on a la tête ailleurs pendant l'année là.
J'ai des idées fixes, je voyais des bounty et du coca de l'original, comme ça. Des flashs, comme ça. Ouais.
Et pas, encore 20 fois, quand je me retrouve, ça permet de le.
Alors.
Annule le plaisir qu'on a pu avoir lors de la faute.
Alors, ça on verra après. En quoi il pose une question, Guy. Il dit en quoi le fait de sacrifier sacrifier sa graisse et son sang, ça fait quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Ça on verra après. Ça, parce que c'est pour.
En quoi de la graisse d'un animal.
La même question. On verra après. Mais le Ramban Nachmani, le début de Parasha Vaikra à l'émission, il explique qu'en vérité, aujourd'hui qu'on en exile, le korban qu'on fait par le Tamit aujourd'hui qu'on est en exil, est en vérité plus fort que le korban qu'on faisait à l'époque du Beit HaMikdash. Parce qu'il dit finalement, à l'époque du Beit HaMikdash, la personne, il offrait un sacrifice, et il disait, le sacrifice vient à la place de ma graisse. Mais là, nous, aujourd'hui, on sacrifie vraiment notre graisse. Alors, c'est vrai qu'on n'en meurt pas. Mais je sacrifie quelque chose qui fait partie intégrante de moi. Donc, vu sous cet angle-là, dit le Ramban, Nachmanides, au début de la parasha avec Ray, dit, vu sous cet angle-là, le Ta'anit, c'est encore plus fort qu'un korban. Puisque je sacrifie vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de moi. Velachen, c'est pour ça. Matsin ou Bechama Tanaïm de Amoraïm. C'est pour ça qu'on a vu plusieurs Tanaïm et plusieurs Amoraïm, donc des maîtres de la Mishnah et de la Gemara. Donc on retrouve dans la Gemara. Shal Davarkal, que sur des choses très légères, vraiment des choses très légères, des choses qu'on comprend, vraiment des choses que pour nous c'est des choses rien du tout, quoi. On va donner des exemples après. Ayumit anim taniyot arbe meod. Il jeûnait arbe meod, ça veut dire beaucoup, beaucoup, très beaucoup. Pourquoi il dit très beaucoup? Vous savez que chaque mot est très précis dans le Tania. Enfin, moi je m'arrête pas toujours sur chaque lettre et chaque mot. On n'a pas toujours le temps, mais chaque lettre est précise. Ça veut dire quoi? Très beaucoup. Très beaucoup, ça veut dire qu'il jeûnait à un tel point que ça changeait quelque chose en eux. Ça devait métamorphoser quelque chose chez eux. Ça devait changer quelque chose. Et donc, chaque grave, selon le nombre de jeûnes qu'il avait besoin pour faire quelque chose, il jeûnait des jeûnes, mais pourtant c'est des choses que la Torah ne m'a pas demandé. Il y a même des exemples. D'accord? On verra, on va amener après des exemples. L'Admor HaZaken ne se suffit pas simplement de dire qu'on l'a déjà vu dans la Gemara, mais il va amener des exemples, il va amener trois exemples, pour être plus précisément. Trois exemples. C'est quoi les trois exemples qu'il va amener? Alors, trois exemples qu'ils vont amener, ce qu'on va expliquer ici, de manière générale, dans les Averot, les Averot qu'on peut faire peuvent se séparer en trois catégories. On a les Averot qu'on peut accomplir avec la pensée. On a les Averot qu'on peut accomplir avec la parole. Et on a les Averot qu'on peut accomplir avec la parole.
Action.
Avec l'action, pardon.
Action.
Bon. Alors, d'un côté, c'est quoi le plus grave? C'est quand c'est les Averot qu'on fait avec l'action.
Parce que la précédée, généralement, la pensée, la parole et l'action.
Comme on dit, c'est dans la Gemara là-bas, elle dit, la Gemara Zvachim, elle dit, ça s'appelle un lav chez Yesh Bo Maase. C'est une avéra dans laquelle il a fait une action. Ça veut dire que c'est pas simplement que j'ai réfléchi à quelque chose, c'est une fraction de pensée, non. J'ai agi, j'ai fait quelque chose. Et en général, bon, une parole, ça peut sortir sans faire exprès, une pensée encore plus, mais quand on a agi, en général, on a plus de temps de réfléchir. Donc, vu sous cet angle-là, une avéra qu'on fait avec l'action, a priori, c'est une avéra qui est beaucoup plus grave. Mais d'un autre
côté, la pensée d'abord.
D'un autre côté, explique l'Admor HaZaken, on avait expliqué dans le chapitre 37, qu'une avéra qu'on accomplit avec la pensée, d'un autre côté, elle est beaucoup plus grave. Pourquoi ? Puisque une avéra qu'on accomplit avec l'action, finalement, ça garde un aspect technique. Et ça n'a pas vraiment changé quelque chose en moi. Bien sûr qu'une avéra, ça fait quelque chose. Mais ça n'a pas changé quelque chose dans ma personne. Alors qu'une avéra que j'accomplis avec ma pensée, ça veut dire, par exemple, personne n'y fait Avodah Zara. Il passe devant quelque chose, et dans sa tête, il a envie de servir ça. Ça s'appelle Avodah Zara. D'accord ? Il l'a fait Avodah Zara. Si la manière de servir cette idole, c'est par la pensée, ben il vient de faire Avodah Zara. Alors, c'est vrai que il a rien fait de concret, il a rien touché avec ses mains, il a rien dit. Mais étant donné qu'il a pris le temps de réfléchir à ça, étant donné que la pensée est ce qu'il y a de plus fin chez la personne, alors le dommage qu'on va faire est un dommage qui est beaucoup plus fort. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vais vous expliquer ça. La Gemara Yoma elle dit que ir ure avera, kashim me avera. Que le fait de penser à une avera, c'est plus grave que faire la avera. Faire une avera, penser à une avera, c'est-à-dire penser à vouloir faire une avera, c'est plus grave que faire une avera. Pourquoi c'est plus grave que faire une avera? C'est important, j'ai rien fait, j'ai juste pensé, j'ai rien fait. D'accord? Il y a plusieurs explications. Une explication qui dit que lorsqu'une personne réfléchit à une avera, par exemple, il pense à faire une avera, mais il l'a jamais faite. Il va jamais faire teshuva sur ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va lui dire son yetzer hara? T'as rien fait. Tu voulais, t'as rien fait, tu t'es retenu, t'es un grand tzadik. Baruch Hashem, Kola Kavod, bravo. D'accord? Mais pourtant, le problème c'est quoi? C'est que le fait que j'ai utilisé ma pensée pour réfléchir à une bêtise pareille, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, ma pensée s'est salie de manière que ça a changé quelque chose dans ma personne. Que maintenant, j'ai ça qui fait partie de ma personne. Et je vais jamais faire teshuva sur ça. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point. C'est que comme la pensée, c'est ce qui est de plus fin chez l'homme, l'action, c'est ce qui est de plus grossier, la parole, c'est un peu plus fin, et ce qui est de plus fin chez l'homme, c'est la pensée. Plus que c'est plus fin, hein, même si c'est vrai que a priori c'est pas quelque chose de très grave, mais sur quelque chose de plus fin, la tâche se voit tout de suite beaucoup plus facilement. On va donner un exemple très simple. Vous prenez un jean, un vêtement en coton et un vêtement en soie. Sur un jean, une tâche, ça se voit pas tellement. Même s'il y a une tâche, une grosse tâche, c'est pas spécialement que ça va se voir. D'accord ? Sur un vêtement en coton ou en laine, ça va se voir, d'accord ? Mais bon, tu peux essayer de camoufler un peu, de l'arranger. Mais sur un vêtement en soie, d'accord ? Soie blanc comme ça, dès qu'il y a une plus petite tache, c'est fini, c'est mort. Pourquoi ? Parce que c'est plus fin. De la même manière, même si c'est a priori une avéra, j'ai rien fait, j'ai pensé à une avéra, mais je ne l'ai pas faite. Étant donné que la pensée, c'est ce qu'il y a de plus fin chez l'homme, c'est comme un vêtement de soie. Donc tu as sali et la tache se voit tout de suite, la tache se voit à 10 000 km, même si elle est toute petite, ça dérange. Quand t'as une tache sur un jean, ça dérange pas tellement. Mais quand t'as une tache sur un vêtement en soie, tout de suite, à 10 000 km, tu la vois et tu peux plus te voir ce vêtement. Tu dis, ah, ça me dérange, la tache. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vu sous cet angle-là, la pensée est plus grave quand on fait une avéra par la pensée. Même penser une avéra, comme explique la Gemara Yoma, faire une avéra par la pensée, c'est plus grave que par l'action.
Excuse-moi, juste une chose.
Alors, juste deux secondes.
On pense à voler un truc.
Juste un troisième point, puisque je conclue avec ça.
Quand tu fais l'action, tu
penses. Alors, et d'un autre côté, donc le premier rang qu'on a expliqué, c'est que quand on fait une avéra avec l'action, d'accord, je fais une avéra avec mes mains, avec mes pieds, etc., ben, c'est une avéra qui est très grave, puisque j'ai pris le temps de réfléchir à faire l'avéra, vraiment, là c'est très grave.
Donc, il y a pensé. D'accord ?
Très bien. Oui, non, mais ça veut dire qu'il y a l'aspect, ça veut dire que ça a pris forme. C'est pas simplement quelque chose que j'ai réfléchi, ça veut dire que je suis passé à l'action.
Donc c'est impossible de dire que c'est
que tu y penses avant de le faire.
D'accord, très bien. Oui, j'y pense avant de le faire, très bien.
Donc j'ai fait la
question, très bien. La question qu'on se pose, deux secondes, écoutez bien, je suis en train de dire. La question qu'on se pose, laissez-moi finir s'il vous plaît, messieurs, parce que là je vais expliquer pourquoi la pensée, la parole et l'action, vu sous trois angles différents, des fois la pensée c'est le plus grave, des fois la parole c'est le plus grave et des fois l'action c'est le plus grave. Alors, on va commencer par l'action, c'est le plus simple. L'action, c'est vrai que tu as pensé à la Vera, mais là, vu sous cet angle-là, l'action est le plus grave. Pourquoi ? Puisque c'est là que je suis passé à l'action, c'est là que j'ai c'est là que j'ai matérialisé l'avéra. Donc le fait d'avoir matérialisé une avéra, c'est très grave.
Oui.
D'accord ? Donc vu cet angle-là, quand on fait une avéra en action, c'est là le plus grave. On a expliqué le deuxième angle. C'est-à-dire que non. Que, a priori, ce qu'il y a de plus grave, c'est quand on fait quelque chose avec la pensée. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on peut faire teshuva très difficilement. Ça, c'est technique, déjà. Mais c'est pas seulement ça. Étant donné que la pensée, c'est ce qu'il y a de plus fin chez un homme, donc, la tâche se voit tout de suite. Et la tâche, c'est une tâche qui dérange. C'est une tâche qui fait beaucoup de mal. Ça, c'est vu sous cet angle-là. Donc, la pensée est plus grave. Maintenant, il y a encore un troisième angle. Qui dit que, une avéra qu'on fait par la parole, d'accord, comme le lashon hara, par exemple, est une avéra qui est encore plus grave, que la pensée et l'action. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la parole? Ce qu'il y a de particulier dans la parole, c'est que le roi, ce Shlomo HaMelech, il dit « Nafsho yatsa bedibro » que l'âme a un lien particulier avec la parole. L'âme a un lien particulier avec la parole. C'est-à-dire que quand on parle, des fois on peut penser quelque chose, ça touche pas à certaines couches de l'âme. Ça fait rien. Tu peux même faire, ça touche rien. Mais la parole, le fait d'exprimer quelque chose par la parole, ça va toucher la Neshama. Pourquoi? Quel rapport avec la parole? C'est très simple. D'où elle vient la parole? D'où vient la parole? La parole vient d'un souffle. D'où il vient ce souffle? Ce souffle vient du plus profond de la personne. Il vient du plus profond de la personne et c'est un souffle que je vais exprimer et qui va se transformer en parole. C'est-à-dire que j'exprime quelque chose de très profond. De la même manière, quand on est en train de dire quelque chose, et si c'est une mauvaise parole, on est en train d'exprimer quelque chose de très mauvais qu'on a en nous. C'est valable pour le bien aussi. Comme il disait le Baal Shem Tov, quand on voit quelqu'un qui va pas bien et qu'on lui dit, on va essayer de lui donner une bracha du fond du cœur, une bracha verbale, mais on va faire une tfila. Pourquoi la tfila est très importante? Pourquoi on doit faire la tfila verbalement et pas par la pensée, et pas par l'action? Parce que quand on va faire la tfila verbalement, qu'est-ce qui va se passer avec la parole? La parole a cette capacité de développer ce qu'il y a de plus profond. Et donc là, imaginez-vous quelqu'un qui a fait une avéra avec sa parole, ça veut dire qu'il est parti chercher ce qu'il y a de plus profond pour faire l'avéra. Donc on peut avoir trois aspects différents, et on comprend bien que selon l'angle qu'on va prendre, la pensée, la parole ou l'action, ça peut être, l'un peut être plus grave que l'autre. Alors, pourquoi je vais amener ces trois exemples, après on arrive à ta question d'offre. Parce que, avec ces trois exemples-là, on va comprendre pourquoi l'Admor HaZaken ici a amené trois exemples. Parce que dans la Gemara, on a des dizaines d'exemples. Mais l'Admor HaZaken a choisi trois exemples de Tanaïm et Amoraïm qui ont fait d'Averot. A priori, enfin, c'est même pas d'Averot. C'est des choses sur lesquelles nous, on aurait même pas, on s'aurait rendu compte qu'on a fait quelque chose de pas bien. Et c'est trois choses qui vont correspondre à ces trois choses-là. Pensée, parole, action. C'est pour ça que l'Admor HaZaken a amené particulièrement ces trois exemples. Alors avant de passer dans les détails, Dov, t'avais une question.
Non, je disais par exemple, je prends un exemple très simple. J'ai un truc qui me plaît et je ne sais pas pour l'acheter, je me dis que ce serait bien si je pouvais le voler. D'accord? Oui. Je me dis, après tout, je prends, tiens, je me dis, attends, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une bêtise si je le vole.
D'accord.
Là, voilà, je me suis limité à ça. Est-ce que c'est plus grave que celui qui dit, ça me plaît, je vais le voler?
Et il a volé.
Il va passer à l'action et qu'il va le voler.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut...
Non, c'est pas plus grave. Là, on essaye de réfléchir. Hein. Quel est l'aspect le plus grave dans une avéra?
Je simplifie. Hein, beaucoup, parce que ça, c'est vrai.
Oui,
mais c'est beaucoup,
j'ai compris la question.
On voit ça.
Alors, je vais simplifier. Imagine-toi quelqu'un qui a réfléchi, il a envie de voler. Il a décidé, il va voler. Il rentre dans le magasin, il insulte le vendeur. Et il vole. Il a tout fait. Il a fait la pensée, la parole, l'action.
Qu'est-ce qui est plus grave?
Et il a mis par terre le vendeur au passage.
Le plus grave, c'est quand même qu'il a tapé le truc.
Alors, c'est ça la question qu'on se pose. Bien sûr que c'est très grave ce qu'il a fait. Mais quel est l'aspect le plus grave dans ce qu'il a fait? Et là, on retrouve les trois aspects. Selon l'angle qu'on va prendre. Tu peux dire que l'aspect le plus grave, c'est le fait même qu'il a pensé à voler. Parce que c'est là que tout s'est passé. C'est là que le plus gros de la tâche était à ce moment-là. D'accord? Tu peux avoir une deuxième manière de voir les choses qui dit non. Le plus grave, c'est quand il a exprimé ça. Quand il a décidé d'exprimer ça verbalement. Ça, c'est le plus grave. Parce que c'est là qu'il a fait ressortir quelque chose de très profond. Il a utilisé une force de sa neshama pour faire du mal. Très très grave. Et tu peux dire ce qui est le plus logique dans notre tête. Il dit non, le plus grave, c'est quand il a volé. D'accord? Donc, c'est pas contradictoire. Ils sont complémentaires, ces trois éléments-là. C'est pour dire que selon l'angle qu'on va prendre, on peut avoir trois aspects différents. Et... selon ces trois aspects, par rapport à un aspect, la pensée peut être plus grave, selon l'autre aspect, la parole peut être plus grave, et selon l'autre aspect, l'action peut être plus grave. Mais c'est trois aspects qui sont complémentaires.
On n'est pas puni sur la pensée, on est uniquement sur la parole et sur l'acte.
Ça dépend. Bien sûr qu'on est puni sur la pensée. Il y a des pensées qui sont assourdes. Par exemple, penser à une femme qui est mariée, c'est assourd. Le tahmod. Ça rend à la convoitise.
Ah, convoiter, oui.
Ah oui.
Convoiter cette pensée, oui.
D'accord.
Oui.
Ah non, attention. Et à la convoitise, il s'écrit le titre Ave dans les deux, dans le bon, on avait fait tout le coup tout un cours sur ça. Dans les 10 commandements qui s'adressent à Israël, Dieu nous demande plus que ça. C'est même pas seulement la convoitise. Dieu nous demande de même pas avoir envie. D'accord? Parce que convoiter, c'est quand déjà, bon, il a déjà fait son plan, comment il va arriver à, oui, à ses fins.
Oui.
Et là, même avoir envie, même ça, c'est assaut.
C'est assaut, mais il n'y a pas de punition, je veux dire.
Pourquoi
pas,
c'est assaut?
C'est pas marqué, par exemple. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un tribunal
qui va se convoquer. La Gemara Zaken, dès le début, Antania, il nous montre que là, on n'est pas en train de parler de punition. Parce que la punition, on peut faire, tu vois, en une fraction de seconde. Tu peux avoir une personne qui
on
fait tes choix en quelques secondes.
De ce que t'as fait, de l'acte.
Ouais, mais d'accord, mais le Yetzer est là. En fait, le Benoni, c'est ça, c'est celui qui contrôle sa pensée. Dès que la pensée va arriver,
voilà,
hop,
oui,
dégage.
Parce que penser, c'est assourd aussi. C'est comme la parole. Les gens, ils pensent, j'ai rien fait, j'ai dit quelque chose, j'ai rien fait.
À part l'exemple que tu donnes, qu'est-ce qu'il y a comme de penser la Vodazara, par exemple, aussi, c'est penser à la Vodazara. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples qu'on pourrait.
Si elle n'est pas mariée alors.
Quoi?
Si elle n'est pas mariée, ça va alors. Il vient de le dire, hein.
Si elle est nidée, c'est assourd.
Bon, si elle est pas Nida.
C'est ta main qu'elle est Nida.
Alors, elle est Nida puisqu'elle n'est pas mariée.
Non, excuse-moi, je vous repose la question. À part l'exemple que tu viens de donner, c'est un bon exemple pour la pensée.
Oui.
Il y a d'autres exemples que tu peux donner.
D'autres exemples d'Avera qu'on peut faire par la pensée.
Parce que penser de voler, est-ce que c'est une...
Non, c'est pas une Avera. Mais la Gemara là-bas dans le traité Yoma, elle dit que même si c'est pas une Avera, c'est Kashim mais Avera, c'est plus dur qu'une Avera. Ça fait un dégât.
Mais c'est pas une Avera, ça fait
non, c'est
une
Avera. Non. Encore une fois, là on n'est pas dans la Avera, c'est possible que ce soit pas une Avera. C'est pas possible que ce soit pas une Avera. Mais ça laisse un dégât dans la tête. Comment j'ai pu penser à une chose comme ça?
Penser à faire de la chaune, ne pas le faire la chaune, c'est pas une Avera.
Théoriquement, non.
Mais pourtant on a pensé à le faire.
Oui, oui. Théoriquement,
c'est
pareil,
non. C'est
le même système. Oui, c'est le même système. Alors, donc maintenant écoutez bien les trois exemples qu'on va donner. D'accord ? Les trois exemples qu'on va donner, et surtout la Gemara Zaken, contrairement à son habitude, va donner les noms des Tanaïm et Amoraïm qui sont concernés. Et chaque détail est précis, très précis dans le Tania. Et on va donner le premier, c'est Rabbi Elazar ben Azaria, qui était Cohen. Le deuxième exemple qu'on va donner, ça sera Rabbi Yoshua. Et le troisième, c'est Ravuna. Alors c'est quoi la pourquoi on a besoin de donner les noms? C'est très important de donner le nom. Puisque Rabbi Eliezer ben Azaria était un Cohen. D'accord? C'est pas seulement un Cohen, c'était un Cohen qui avait sa lignée qui montait directement jusqu'à Ezra. Ezra Sofer, Ezra le scribe.
Qui était Cohen aussi, non?
Bien sûr. D'accord? Donc le Donc,
mais il est pas juif.
Alors attends. Non, bon. C'est vrai qu'on appelle Ezra Sofer. Alors attends. Très bien.
J'ai le droit de pas savoir.
Loa Baïchan l'amène. Alors attendez. Donc Ezra, Rabbi Elazar ben Azaria était Cohen. Allez messieurs, il y a beaucoup de détails. Rabbi Elazar ben Azaria était Cohen. Le Cohen, ça représente quoi? Le Cohen, ça représente ce qu'il y a de plus élevé, de plus fin, de plus raffiné chez le peuple juif. Donc ça représenterait la pensée. D'accord? Rabbi Yoshua. D'accord. Quand on dit Rabbi Yoshua par défaut, la Gemara dit Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua par défaut, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania, qu'on retrouve dans Pirkei Avot. Rabbi Yoshua était Lévi. Donc le Lévi est un intermédiaire. De la même manière que la parole est un intermédiaire entre la pensée et l'action. Ravuna était Israël. Ravuna était Israël, c'était un juif comme tout le monde. D'accord. Et donc, pour Ravuna, on va amener un exemple, et vous allez voir comment les trois exemples qu'on va amener vont correspondre à la Neshama de chacun. Vont correspondre à Cohen, Lévi, Israël. Donc on va donner les exemples. Premier exemple, c'est qui? C'est Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, Shayam Matir, là vous allez voir que c'est une Avera, vraiment, on peut dire que c'est vraiment une Avera dans la pensée. C'est une Avera, pour nous, c'est rien. Quelque chose comme ça, même pas on s'aurait rendu compte. Rabbi Elazar ben Azaria, Shayam Matir, Il y a un cas qui est ramené dans la Gemara à Shabbat, d'accord, qui dit que est-ce qu'une vache a le droit de sortir avec une avec un comment on appelle ça
une
avec
courroie.
Un c'est pas une courroie, non, retsoua, c'est un fil, pas un fil, comment on dit, une ceinture, un lacet,
son
d'accord
étrivière.
Comment on dit,
son étrivière.
Alors moi je connais en hébreu, j'ai compris ce que ça veut dire, mais...
Trivière, ça m'arrange pas beaucoup.
Alors. Mais... Donc il est attaché, Ben Karnav, entre ses cornes. Alors il y avait une marloquette entre Chachamim et Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar, il disait c'est permis. Chachamim, il disait non, c'est assourd, c'est considéré, on n'a pas le droit de sortir avec ça. D'accord, on n'a pas le droit de sortir avec ça, bon, peu importe la raison pourquoi. La marloquette était, est-ce que c'est considéré comme une charge ou comme une décoration? Selon Rabbi Elazar ben Azaria, c'est considéré comme un bijou, c'est considéré comme une décoration sur l'animal. Selon Rabbi, selon Ramim, non, c'est considéré comme une charge, donc on n'a pas le droit de mettre une charge sur l'animal.
Non, mais ça servait à quoi?
Bon. Alors.
C'est le collier là qu'ils ont pour.
Non. C'est un collier qui était décoratif apparemment. Mais la question est-ce que c'est considéré comme une charge? En d'autres termes, est-ce qu'on peut considérer qu'on décore son animal ou pas? Marloquet, Rabbi Elazar ben Azaria et Chachamim. Chachamim, ils disent c'est interdit. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit que c'est permis. Maintenant, bien sûr que Rabbi Elazar ben Azaria a suivi l'avis de la majorité. Et que pour lui, c'est évident que c'était interdit. Que pour lui-même, il faisait attention à ça. Parce que la halakha est comme la majorité. Bien qu'il pensait le contraire, il a suivi la majorité. Maintenant, regardez bien ce qui s'est passé. Oufa Amachat, une fois, Yes Aken, est sorti ainsi. Parato Shel Shrento, la vache de son voisin. Avec, pareil, avec le les rivières. D'accord? Maintenant, Velo Michaba, Rabbi Elazar ben Azaria n'a rien dit. Ça, c'est que quand il a rien dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas, normalement, il aurait dû, Micha, c'est-à-dire qu'il aurait dû protester. Il n'a pas protesté, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Même pas parce qu'à ce moment-là, c'est pas parce qu'à ce moment-là, il se dit, ah, lui, il fait comme je dis. Il a même pas pensé, il a rien dit. D'accord?
C'est ça. Il n'a pas dit que c'était...
Il n'a rien dit. Ni il a dit, mais bon, lui, il s'en est voulu parce qu'il aurait dû protester. D'accord? Oui. Entre les cornes. Veushcharushin, il a tellement jeûné. D'accord? Il a regretté sur cette faute-là. Pour lui, c'était une faute. Comment c'est possible que je n'ai pas protesté contre cette personne-là qui faisait contre la halakha? Bien que pour lui, c'est pas la halakha. Mm-hmm. Vous me suivez? Ouais. Pour lui, c'est pas la halakha. Pour lui, les chachamim se trompent. D'accord? Mais pour lui, il se trompe. Donc, il dit, ça va, j'ai rien dit. J'ai pas besoin de le dire. Il s'en est voulu. D'accord? Quand je dis il s'en est voulu, il a jeûné, tellement il a jeûné, jusqu'à que Veush Harou Shina Vibina Tsomot, que ses dents ont noirci, Mipina Tsomot à cause des jeûnes. Imaginez, quelqu'un tellement il a jeûné que ses dents sont devenues noires. C'est-à-dire qu'il a même plus compté, il comptait même plus les jeûnes qu'il faisait. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, Arbe Meot, très beaucoup. C'est-à-dire que pour lui, il sentait que c'était pas encore ça. Et donc il jeûnait, jusqu'à que ses dents sont devenues noires. Et c'est quelque chose que les élèves ont vu. Pourquoi? Ah, chez le Kiyem, d'Ivré Khaverav.
Et donc, quand on doit jeûner,
c'est tout petit.
D'accord? Donc là, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il s'en est voulu qu'il n'a pas protesté, il n'a pas accompli les paroles de ses avis. Là, d'accord? Donc là, vous voyez bien que il n'a pas fait d'avéra. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a même pas d'obligation.
Il a pensé.
D'accord? Non? D'accord, mais il n'y a pas d'avéra ici. J'ai pas une obligation de protester quand quelqu'un il fait comme. D'accord.
D'accord.
Non, il n'a pas pensé à ça. Ça justement, il n'a pas pensé. Il s'en est pas voulu pour ça. Il s'en est voulu pour le fait qu'il n'a pas protesté. Il n'a pas dit c'est à source ce que vous faites, c'est interdit, c'est très grave, etc. Il s'en est voulu pour ça. D'accord. Alors, seconde. Alors, ici que le Edmond Razaken, encore plus, d'accord? Pour ça, c'est le Rabbi qui explique longuement le problème de Razaken, mais c'est trois exemples. Il explique qu'en plus, là, qu'est-ce qu'on voit de particulier? On voit que, tout d'abord, c'est une avéra qui était des Chachamim. C'est des Chachamim qui ont interdit, pas la Torah. Et deuxièmement, c'était une avéra qui était sur un animal. Bien que la Torah nous demande que l'animal doit se reposer, mais c'est rien à voir avec l'homme. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Elazar ben Azaria, il avait toutes les raisons possibles de se défendre, de dire, bon, c'est une interdiction des Chachamim, c'est pas moi, d'accord? Il n'est pas au courant, ça concerne un animal, bon, ça va, c'est pas le bout du monde, d'accord? Et quand même, il s'en est voulu. Donc là, vous voyez, Rabbi Elazar ben Azaria était Cohen, on a expliqué que le Cohen, ça correspond à qui? Ça correspond à la pensée. Donc, puisque ça correspond à la pensée, même sur une avéra, c'est même pas une avéra, pour nous, c'est rien ça, d'accord? Non, il était Cohen, tout courant. Comme, tellement ça l'a dérangé, d'accord? Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un vêtement en soi, même une petite tache, ça, il se voit tout de suite. Et ça l'a dérangé. Apparemment, jusqu'à la fin de ses jours, il a jeûné. Tellement ça l'a dérangé. Parce que pour lui, c'était très grave. Bien que pour nous, a priori, c'est rien du tout. C'est même pas une avéra dans la pensée, c'est rien. Ça, c'est un premier exemple.
Ils lui ont posé la question pourquoi il jeûne.
Il leur a dit.
Il leur a dit, bien sûr.
Qu'il leur a dit. Il leur a dit, jeûne pour ça, il s'en voulait.
Allez,
d'accord.
Alors, c'est
deuxième exemple, on a dit c'est qui? Vous vous rappelez, c'est qui le deuxième exemple?
Rabbi Yoshua
était un Lévi. Le Lévi correspond à la parole. Vechen Rabbi Yoshua Shama, Rabbi Yoshua qui a dit, parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Boshni midivrechem bet shamay. Une fois bet shamay, ils ont dit un truc, et bon, il n'a pas du tout accepté ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai honte de ce que vous dites, Beth Shammai. Et vraiment, il pensait, attendez, comment vous pouvez parler comme ça? Il avait honte de la halakha qui disait Beth Shammai. Et il s'en est voulu. Pourquoi il s'en est voulu? Comment j'ai pu parler comme ça? Non, bon, ça va, c'est pas le bout du monde. Donc là, vous voyez, c'est déjà une, là, c'est déjà un peu plus une avéra, quand même.
Il a jeûné.
D'accord. Alors, c'était pas... Ah, attention, les commentaires là-bas expliquent que c'était pas un problème de la chanara, etc. Puisque quand, comme il était dans le cadre d'une discussion talmudique, c'était moutard ce qu'il a fait. Mais, ça se faisait pas. Là, vous voyez, c'est déjà moins fin que tout à l'heure. Là, bon, il les a presque insultés. Pas tout à l'heure qu'il a pas, il a omis de protester. Parce que Rabbi Yeshua, c'est Lévi. C'est déjà la parole. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Pareil, la même chose. Veush Ravrush et Navinat Somot. Sagmar Chagigal raconte, a dit que tellement il a jeûné que ses dents sont devenues noires. C'est quelque chose que tout le monde a vu.
Moi aussi.
Pourquoi? Parce que j'ai manqué de respect avec ma parole. Ça c'est Rabbi Yeshua qui correspond au Lévi. Ravuna qui était, on a dit, Israël, qui correspond à l'action. Famachat, une fois, nithapra lor et tsua shel tfilin. Une fois, il a eu une lanière de tefilin qui s'est renversée, qui s'est retournée. Ah, c'est déjà l'action. C'est pas la parole, c'est pas la pensée, c'est l'action.
Mais c'est pas lui qui l'a retournée.
Non, elle s'est retournée. D'accord. Elle s'est retournée. D'accord. Non, une lanière de tefilin. Une tefilin, bon. D'accord. Ça veut dire qu'après qu'il a déjà fait la bracha, non, attention. Sur le bras, par exemple, ou sur la tête. D'accord. Ça veut dire que sur la tête, faut faire très attention à ce que c'est toujours le côté noir, ça va à l'extérieur.
C'est bien de mettre sur excuse-moi, je peux changer. J'ai vu qu'il y en a qui mettaient sur les ceintures pour pas que ça se retourne.
Oui, bon, pourquoi pas. Parce que c'est bien de mettre dans les côtés. Alors, donc là c'est de l'action. Alors, ça aussi c'est pas grave, alachiquement parlant, c'est rien. D'accord.
Il y a une façon de mettre.
Alachiquement parlant, c'est rien. Pourquoi alachiquement parlant, c'est rien? Parce que, au moment où il a fait la bracha, au moment où il a fait la bracha de la téphiline, elle s'était bien posée. C'est pas de problème. Donc après, maximum, ben, c'est ça rien, il la remet, c'est tout. Et lui, il a jeûné. Il dit, non, comment c'est possible? Si ça m'est arrivé, c'est qu'il y a quelque chose. Et il a jeûné pour ça. Hein, pour nous, c'est rien. Pour nous, c'est rien du tout. Attends qu'on arrive à contrôler une pensée, parole et action quand on met les tefilines. Lui, non. Il dit, non, attention, si c'est passé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un signe. Là, oui, bon, c'est déjà de l'action, là. Ah, c'est pas de la pensée, c'est pas de la parole, c'est de l'action.
Et qu'est-ce que... les ans deviennent noirs.
Voilà. Alors, vite, Anna, même Tsomot, il a jeûné 40 jeûnes. Bon, ses dents sont peut-être pas devenues noires. Parce qu'encore une fois, d'accord, quand plus on, comme lui, il est Israël, donc la tâche se voit moins. Donc il y a moins besoin de jeûner. Sur un jean, non, tu passes un petit coup et ça y est, c'est propre. Bien que c'est pas propre en vérité. Si c'était en soi, ça serait pas propre. Mais bon, ça passe un petit coup, ça y est, c'est propre.
Et il devait jeûner, mais il devait fumer aussi.
C'est Rabbi Zera. Rabbi Zera, on dit que le Shabbat, il fumait beaucoup, Rabbi Zera.
Il mettait dans une bouteille.
Il mettait dans une bouteille,
ouais. Il fumait. Il fumait quoi à l'époque?
Je sais pas. Narguila, c'est un équivalent de la narguila. En tout cas,
il mettait dans une bouteille. Qu'est-ce qu'il fumait?
Il mettait de la fumée dans une bouteille. Et le Shabbat, comme ça, il ouvrait. Santé, il refermait.
C'est son Nico Patch.
Alors, pourquoi 40 jeunes? Pourquoi ce chiffre 40? Pourquoi? Et d'abord, pourquoi, on a dit tout à l'heure, il jeûnait très beaucoup. Pourquoi 40 est considéré très beaucoup? Beaucoup de jeunes, puisque 40, c'est considéré dans la Torah, d'accord, 40 c'est considéré dans la Torah comme, quand une personne, le chiffre 40 est considéré comme une création d'une nouvelle chose, par exemple, d'accord, on voit que, à partir de quand on considère que l'enfant est déjà né, d'accord, enfin que l'enfant est déjà créé, c'est à partir de 40 jours, c'est-à-dire que 40 jours c'est un chiffre très important, le chiffre 40 représente la création, donc c'est pour ça qu'il a jeûné, 40 jours. Ce 40, ça représente le fait de changer quelque chose. Arbé, mais encore une fois, rappelez-vous, le but des jeunes, chez les tzadikim, c'était de sentir que ça change. C'est de sentir que ça change quelque chose. Où on retrouve le chiffre 40 encore? 40 ans dans le désert. Où on retrouve encore le chiffre 40? D'accord? La Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu en 40 ans. D'accord, en 40 jours, pardon. Exactement. Ben Arbaim le Bina, dans Pirkei Avot. On dit qu'à partir de 40 ans, c'est là qu'on a la sagesse, et c'est à partir de là qu'on peut apprendre le Zohar. D'accord? De la même manière, la Gemara a dit que le Kaim Inish a daté des rabais à Darbaim Chilin, qu'un homme ne peut arriver à la compréhension à comprendre ce que son maître voulait dire parfaitement seulement au bout de 40 ans. Encore une fois, le chiffre 40. C'est-à-dire que c'est là qu'on change. Moshe Rabbeinu a prier pour pardonner sur le Vaudor combien de temps? 40 ans. Pour recevoir le Luchot, 40 jours. Pour recevoir le Luchot combien de temps? 40 jours. D'accord? Qui correspondent 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour.
On ne sait pas pourquoi 40. On sait.
Oui, c'est quoi l'origine de 40?
On ne sait pas l'origine de 40.
Ah, pourquoi le chiffre 40?
Arbé et Arbaïm.
Qui a rapport avec. Oui, qui a rapport avec
40. Arbé et Arbaïm, ça se ressent, je trouve.
Je sais pas. Qui a rapport avec le chiffre 40, je sais pas. Est-ce qu'il dit ici?
Oui.
Non, je crois pas qu'il dit. J'ai déjà vu, il dit pas ici, là.
Aleph, Rech, Bet.
Oui. Non.
Bah oui, c'est un nombre.
340, je sais pas.
Oui, ils sont nombreux, ça.
Alors, donc on revient. Donc, bon, là, c'était une parenthèse, tout ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que, à la base, à l'époque du Beit HaMikdash, quand on voulait être chéri, allez, messieurs, on revient. Quand on voulait être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch comme avant, qu'est-ce qu'on devait amener? On devait amener un Korban. D'accord? Depuis que le Beit HaMikdash était détruit, qu'est-ce qui remplace le Korban? C'est le jeûne. Et on a expliqué, selon le Ramban, que quelque part, le jeûne est encore plus fort que le Korban. Parce que quand on jeûne, on va sacrifier, d'accord? Sa graisse et son sang. Très bien. Donc le jeûne vient ici pour remplacer le korban. Avec ça, on a expliqué, c'est pour ça qu'on a vu plusieurs Tanaïm Amoraïm. Après, il va arriver au Arizal. Après, on va arriver au Arizal, au Zohar, etc. Mais là, pour l'instant, il parle de ce qu'on retrouve dans la Gemara. Que déjà, dans la Gemara, on retrouve des gens qui ont jeûné pour des choses a priori insignifiantes. Alors, insignifiantes, ça dépend sous quelle angle. Pensée, parole, action, comme ce qu'on a pu expliquer. Premier exemple, c'était un exemple dans la pensée, deuxième exemple dans la parole, troisième exemple dans l'action. Mais en tout cas, ils jeûnaient pour des choses qui sont quand même insignifiantes, ils sont très très loin d'être des avérotes. Pourquoi ils jeûnaient? Parce que pour eux, une fois qu'ils ont fait ça, à leur niveau, ils ne sont plus chéris aux yeux d'Akadosh Baruch comme avant. Donc, ça les dérange dans leur conscience. Puis ça leur dérange dans leur conscience, donc ils vont jeûner.
Excuse-moi, à l'époque des Rabbi Yehoshua et Rabbi... il n'y avait pas de corban?
Non, il n'y avait plus de corban, non.
Il n'y avait plus de corban,
non, c'est fini. Non. Plus de corban. Alors, Valiesodze. Et donc maintenant qu'on a amené, donc là pareil, encore une fois, il y a un ordre. Donc tout d'abord, on a amené l'exemple de, la Gemara. On a vu dans la Gemara trois exemples différents, pensée, parole, action, pour nous montrer que le jeûne venait à la place du fils. Alors on dit, Valiesodze. Et sur la base de ça, l'imet à Arizal et Talmidav, le Arizal a enseigné à ses élèves, Alpi Chochmat Ahemet, selon la sagesse de la vérité. Donc Chochmat Ahemet, c'est une manière de dire la Kabbalah. D'accord? Donc il a enseigné Mispar Atsomot, le nombre de jeûnes, les Kama Venot Vechataim, pour plusieurs fautes, d'accord, et manquements. Afshen Bem Karet Velomitabide Shemaim, même d'Averot qui nous en a pas très grave, d'Averot sur lesquels il n'y a pas de Chayav Karet, on n'est pas, donc il n'y a pas de mort qui doit arriver Chas v'Shalom du ciel, même sur ça, le Arizal a enseigné à ses élèves. Donc encore une fois, ce n'est pas basé sur Shulchan Aruch, ce n'est pas basé sur la Gemara, c'était basé selon le Zohar. Et apparemment, à l'époque de la Gemara, on ne jeûnait pas pour ça. En tout cas, les gens ne jeûnaient pas pour ça. Peut-être les tzadikim entre eux jeûnaient, mais ça n'a pas été raconté dans la Gemara parce que ça n'a pas encore été dévoilé. Le Zohar n'avait pas encore été dévoilé. À l'époque du Arizal, que comme on expliquera plus tard, surtout dans les Guérettes à Kodesh, que le Arizal a senti que le moment était arrivé de mitzvah les galotes, zot ha-chorma, que non seulement qu'on a le droit de dévoiler cette sagesse qui était cachée, mais c'est une mitzvah de le faire, il faut le faire. Donc, le Arizal a dévoilé le secret des jeunes uniquement à ses élèves. Mais quand est arrivée la génération du Admor HaZaken, l'Admor HaZaken est arrivé, et le Baal Shem Tov, mais surtout l'Admor HaZaken, sur cette chose-là, l'Admor HaZaken est arrivé à la conclusion que non seulement que l'heure est arrivée de le dévoiler, ça c'était déjà à l'époque du Arizal, mais à l'époque du Arizal, l'heure, on pouvait le dévoiler seulement aux initiés. Et là, l'Admor HaZaken a dit non, c'est pas seulement aux initiés qu'on peut le dévoiler, on peut le dévoiler à tout le monde. D'accord? Après, par la suite, il y a eu d'autres livres qui l'ont dévoilé. Mais le premier, c'était l'Admor HaZaken. Kemo, par exemple, à la casse, sur la colère. Kouf nun alef ta'aniot. Quelqu'un qui s'est énervé. Hein, on sait que celui qui s'énerve, il s'énerve, qu'est-ce qu'il a fait? Rien fait. Quand il s'énerve, c'est pas bien de s'énerver. Pourquoi c'est pas bien de s'énerver? Parce que quand on s'énerve, on a expliqué kol ha-kohes keilu oved avodazara. Tout celui qui s'énerve, c'est comme si qu'il fait avodazara. Vous vous rappelez un cours où on avait expliqué, on avait dit quel rapport avec l'avodazara? C'est très simple. Parce que quand je m'énerve, ça veut dire quoi? Hein, quand je m'énerve, ça veut dire que je dis que la chose ne s'est pas passée comme je voulais. Mais j'oublie que la chose s'est passée comme Dieu le voulait. Donc je suis en train au lieu de servir Dieu, de dire que certainement Dieu a fait que ça s'est passé pour le mieux, je suis en train de me servir. Dire, ah, moi je voulais pas que ça se passe comme ça. Donc, de manière un peu fine, ça s'appelle la Vodazara. D'accord? Alors, c'est pas forcément de l'orgueil, non? pas rien qui s'énerve, qui n'est pas orgueilleux, mais ça l'énerve parce que c'est pas passé comme il voulait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on oublie le fait que tout ce qui se passe dans le monde, c'est qu'à Kadosh Baruch. Alors bien sûr, attention, je suis pas en train de dire que la colère, c'est la Avodah Zara. La colère ressemble à la Avodah Zara. Alors le Harizal a dit à ses élèves, si un jour arrive quelqu'un qui s'énerve, combien de jeûnes il déjeunait ? 151. Pourquoi 151 ? On va faire la valeur numérique de Karas. Karas 20. D'accord ? Donc Karas, Kaf 20, Aïn 70. Ça fait combien ?
Sa mère 60. Ça fait 150.
Ça fait combien ? Ça fait 150. Comment il arrive à 151 ?
Le Kolel.
D'accord ? Le Kolel, exactement. Le Kolel, ça veut dire qu'une des méthodes dans la guimétria, c'est quoi ? C'est de d'abord de compter chaque lettre séparément, et après de rajouter encore une unité, qui correspond à tout le mot. C'est-à-dire qui correspond à tout le mot une fois qu'il est formé. Donc là, 150 plus 1, ça fait 151. Donc voilà, le Harizal a instauré 151 jeûnes. Va filo à l'essor des Rabbanan. Même sur une interdiction des Rabbanan. Alors, bon, là, tu vas me dire, la colère, bon, ça ressemble à la Avodah Zara, c'est une interdiction de la Torah, c'est très grave, c'est pas bien, ça monte dans la tête, c'est tordu. Bon, je dis non, pas du tout. Même sur des avérotes qui nous paraissent encore moins graves. Comme par exemple, Stam Yenav. Une personne qui a bu du vin qu'il a acheté en grande surface. C'est pas du vin sur lequel on a fait Avodah Zara. Pourquoi on a interdit ce vin? Les Rachamim ont interdit ce vin, de peur qu'ils ont fait Avodah Zara dessus. C'est pas dit qu'ils ont fait Avodah Zara. Donc ils ont interdit Stam Yenav, ça veut dire du vin, par défaut qu'on achète en grande surface. Même si on n'a pas fait Avodah Zara, on dit peut-être qu'ils ont fait Avodah Zara, donc c'est pour ça qu'il doit être surveillé. D'accord? Après, il y a différents avis. Est-ce que surveiller? Est-ce qu'on doit voir? Est-ce que ça doit être uniquement un juif qui voit constamment? Bon, après, c'est différents avis. Alors, c'est une interdiction des Chachamim. D'accord? Parce que bon, il n'y a pas eu d'Avera qui te dit. La colère encore, ça ressemble à la Avodah Zara, mais là, c'est pratiquement rien. Tu dis, moi, j'ai pris du vin, que peut-être, c'est possible qu'on ait fait Avodah Zara. Peut-être. Alors, avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille, comme on dit. D'accord? Alors, combien de jeûnes il doit jeûner pour ça? Combien de jeûnes il doit jeûner? Il doit jeûner Aïn Gimel Taniot. Sur ça, il doit jeûner Aïn Gimel 73 jeûnes. Comment il arrive à 73? On va arriver ensemble. Yaïn, Yud 10, Nun 50. Et comment il arrive à 53? Alors encore une autre méthode de Gimatria, c'est que on peut reprendre chaque lettre séparément. D'accord? Et on recompte encore une fois par lettre. Donc là, ça fait 50, plus il y a 3 lettres, donc ça fait 53.
Comment ça s'appelle ça? Le Kolel, ça
s'appelle Kolel aussi, c'est des méthodes. Bon, il y a différentes méthodes de guimatria. Hein. Je ne sais même pas si les ordinateurs peuvent suivre tout ça. Et il y a des dizaines de méthodes de guimatria.
Le problème, c'est que lui, il sait quelle méthode.
Voilà, c'est ça le plus compliqué. Lui, il sait quelle méthode utiliser pour quel cas. Pas seulement ça. Bon, là, tu vas me dire encore... Bon, d'accord, je veux bien accepter. Alors, donc là, vous remarquez qu'on va en décrescendo. Donc on a commencé par quelque chose qui était très grave. Très très grave. Une personne qui s'est énervée, que ça ressemble à la Avodah Zara. Bon, c'est une Aminatora. Après on a dit, le deuxième cas...
Le déduit de la Guimatria, c'est juste un remède.
Ah non, il le déduit de la Guimatria. Mais comme dit Yaakov, pourquoi il a choisi telle méthode et pas telle méthode, ça... Ça, on ne l'a pas dit.
Quelqu'un qui s'énerve.
Alors, deux secondes. Oui, sûr. Kolakoès, la Gemara Avodah Zara dit. Kolakoès, qui est ouvert à Avodah Zara.
Attends,
j'avais. Brachot aussi, elle dit. Mara Shabbat aussi, oui. Tout. Excuse-moi, je vois que. Oui,
de l'eau.
Oui, oui. Peut-être. Bon. En tout cas, allez, venez, messieurs, comme ça, on finit. D'accord, on finit avec ça. Donc, là, on va en décrescendo. On a pris quelque chose. C'est quoi le plus grave? Allez, messieurs, juste deux minutes. Deux secondes. On va en décrescendo. Décrescendo, ça veut dire que le plus grave, c'était quoi? La colère. La colère, ça ressemble à la Avodah Zara. Bon. Sur ça, on comprend que l'Arizal a instauré des jeunes. D'accord. Sinon, même encore moins que ça. Même quelque chose que de peur que peut-être ils ont bu du vin. Que là-bas c'est une interdiction des Chachamim. Sur ça aussi il a instauré. Mais plus que ça. Va filou alissour des Rabbanan kemot fila. Même sur une interdiction des Chachamim, comme la tfila. D'accord? Comme la tfila, ça veut dire quoi? La tfila, ça veut dire, par exemple, non, attention. C'est évident que dans la tfila est une structure dans laquelle on a beaucoup de mitzvot qui sont minatora. Par exemple, dans la tfila, on a la Emouna, le chemin Israël. D'accord? On a le fait de se rappeler de l'unicité de Dieu, encore une fois dans le chemin Israël. On a le fait de se rappeler de qu'on doit aimer Hachem, qu'on doit le craindre. Pareil, c'est dans le chemin Israël.
Donc,
mais tout ce qu'il y avait avant, c'est une introduction pour arriver prêt au schéma. C'est des préliminaires pour arriver prêt au schéma. D'accord? Pareil, la Mida aussi. La Mida, c'est Kabbalah, Tamlachut Shamayim, il faut accepter sur soi le joug divin. D'accord? Donc, la Tfila, de manière générale, est une structure qui englobe en elle plusieurs mitzvot qui sont Minatorah. Mais, les zmanim de la Tfila, l'heure à laquelle on doit faire la Tfila, ça c'est Midrabanan. Les zmanim du schéma, ça c'est Minatora. Mais les zmanim de la tfila,
les zmanim du schéma, c'est Minatora, c'est Minatora.
Pourquoi il y a des zmanim différents entre
les zmanim, du schéma, c'est Minatora. C'est écrit Bechorbecha ou Kumecha. Mais après, il y a Machloket. Comment comprendre ce que la Torah voulait dire? C'est Minatora.
Oui.
Minatora. Alors que les zmanim de la tfila, Midrabanan. Mais celle-là, c'est complètement Midrabanan. Non, imaginez-vous maintenant quelqu'un qui a raté deux secondes. Imaginez-vous, Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui a raté le Zman de la Tfila. Mais ce n'était pas à cause qu'il était en train de se préparer à la Tfila. Parce que si quelqu'un est en train d'étudier pour se préparer à la Tfila, et que il se prépare jusqu'à 2h de l'après-midi, et qu'est-ce qu'il fait à 2h de l'après-midi? Non seulement qu'il n'a pas dépassé le Zman de la Tfila, il a fait une super Tfila, parce que c'est une mitzvah de se préparer à la Tfila. Donc il était dans la préparation. Si une personne s'est réveillée à 2h de l'après-midi, fait cette fille à 2h de l'après-midi, d'accord? Là, dans ce cas-là, a priori, c'est pas bien ce qu'il a fait. Alors le schéma, il l'a déjà fait avant, parce que sinon c'est Minatora. Mais celui qui a fait la tfila plus tard, a priori, il a transgressé quoi? Il a transgressé une avéra qui est Midrabanan. Là, vous voyez comment on va décrescendo. Le premier, c'était la colère qui ressemble à la voix d'Azara. Le deuxième, c'est de peur. Peut-être qu'il y avait du vin, donc peut-être que j'ai fait une avera Minatora, parce que boire du vin sur lequel on a fait Avodah Zara, c'est Minatora. Le troisième, c'est carrément Midrabanan. Le Zman de la Tfila, c'est Midrabanan. Et même sur ça, le Harizal instaurait des jeûnes. Combien de jeûnes pour ce cas-là? Je peux vous garantir qu'il n'oubliera plus. Ikane Samer Alastaniot, il devra jeûner 61 jeûnes. Pourquoi 61 jeûnes? Car un loup, il a trouvé 61. Alors, 61, c'est la valeur numérique de Annie. Annie, moi. Aleph, Nun, Yud. Mais quel rapport?
Il n'y a pas de collègue là.
D'accord. Quel rapport entre 61 et la Tfila? Alors, 61 correspond à la Sphira de Malchut, la royauté d'Akadash Baruch Hu, et la Tfila qu'on fait correspond principalement à la Malchut d'Akadash Baruch Hu. Melech. D'accord. Bon. Alors, encore une fois, ne demandez pas où il est parti chercher ça. Moi, je sais simplement ce qu'il a dit. Pourquoi il a pris cette méthode et pas l'autre? Pourquoi il n'a pas fait la valeur numérique de Tfila? Bon, ça en fait beaucoup, la valeur numérique de Tfila. Tfila, 490, plus 30, 520, 525. Pas mal, 525 jeunes. Bon, il en a pour presque 2 ans.
Oui, 2 ans, en sachant que je ne sais pas si je ne peux pas jeûner.
Oui.
On est dans les 2 ans.
Mais derrière Klal, de manière générale, avec comme ça on finit le Pérec.
C'est décourageant cette histoire-là.
Ah! Bon, alors aujourd'hui, est-ce qu'on jeûne? D'accord?
Ah ben, pas
oui, d'accord, mais tzedaka, on fait autant de tzedaka que ce qu'on a dit ici?
C'est la folie.
Il faut avoir beaucoup d'argent pour payer tout ça. Alors, juste je finis le pérec. Mais derrière Klal, de manière générale, soda ta'anit, le secret du ta'anit, le secret du jeûne, hi segula nifla leit galud ratzen eyon baruchu, c'est une segula extraordinaire, pour que Dieu se dévoile à une personne, se dévoile à nous. D'accord? Quand une personne jeûne, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. C'est la raison principale pour laquelle on jeûne Yom Kippour. Pour que Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous. Se montre à nous. K'moi Korban, comme le Korban, Shneimar bo re'ach nichoach l'Hashem. Comme le Korban, que le Korban, on dit que c'était une odeur agréable devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu est content. Ou k'moi shekatou be'ishaya, comme c'est écrit dans Yeshaya, alazé. De là, on comprend qu'un jeûne qui est accepté, à quoi il sert le jeûne? Le jeûne, c'est un jour propice pour être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme avant. L'Admor Hazaka, encore une fois, c'est très très précis ce qu'il dit. Pourquoi il nous a ramené cet exemple de Isaïe? C'est pour nous montrer que dans la majorité des endroits dans le Tanakh, dans lequel on voit que les Chachamim, enfin les Nevi'im ont instauré un jeûne, c'était pas un jeûne pour être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'était toujours un jeûne pour échanger la peine contre le fait que les Bnei Israël ont souffert par le jeûne. C'est pour ça, des fois, on instaurait 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, 1 mois de jeûne. C'est déjà arrivé. Pourquoi? Pour dire, voilà, si tu avais prévu une souffrance, bah, que cette souffrance, on va la commuter, on va l'échanger contre cette souffrance qu'on a eue par le jeûne. Mais il y a quelques fois, et surtout cette fois que de Yeshaya qui l'amène ici, que là, on voit que Yeshaya nous dit ici que le jeûne selon Yeshaya, à quoi il sert? Il sert pour être accepté devant Kadosh Baruch comme avant. Pourquoi Yeshaya particulièrement? Qu'est-ce qu'avait Yeshaya à Navi plus que les autres jeûnes? On raconte, on dit que Yeshaya, il a vu la Merkava, il a vu le char céleste, d'accord? Donc ça veut dire qu'il a vu, il a vu la Shrina, d'accord? Il a vu la Merkava Eliona, il a vu comme Ben Krar Shera et Ameler, comme un habitant du village qui voit le roi. Alors que Ézéchiel, l'Aftara de Shavuot, lui, il a vu la Merkava, il a vu la Merkava, donc le trône céleste. Lui, il a vu, on dit, Keben Ir Shera et Ameler. Keben Ir Shera et Ameler, ça veut dire, comme l'habitant de la ville, d'accord, qui a vu le roi. C'est pour ça que Ézéchiel était beaucoup plus impressionné. Parce que celui qui est le paysan, il n'a pas l'habitude de voir le roi. Donc quand il arrive, il voit le trône, il est en extase. C'est pour ça que dans Ézéchiel, il est en extase. Alors que Yeshaya, c'est beaucoup moins en extase. Parce que Yeshaya, il est l'habitude, il passe tous les jours par là-bas. Alors, c'est pour ça qu'on amène l'exemple de Yeshaya. Pour dire que Yeshaya, Isaïe, c'était quelqu'un qui était habitué, c'est un habitué. C'est quelqu'un, c'est pas, il venait tous les jours. À tel point que pour lui, il a zappé beaucoup de détails que Yeheskel, il était tellement impressionné que, il était en extase. Pour Yeshaya, c'est quelque chose de pas chou, c'est quelque chose d'évident. Donc Yeshaya, c'est la meilleure personne pour nous dire comment on peut être chéri, pardon, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit Yeshaya? Comment on est chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme avant? Avec le jeûne. C'est à ça que sert le jeûne. Mais encore une fois, le jeûne n'est pas la teshuvah. Le jeûne sert soit à échanger une peine contre une autre, contre le jeûne, soit, dans la majorité des cas, comme le jeûne de Kippour, ça sert à être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme avant. Et c'est comme ça qu'on voit le jeûne de Yom Kippour. Que pourquoi on jeûne? On jeûne pour essayer d'être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, d'essayer d'enlever un peu de matériel pour avoir plus de spirituel. Comme Yeshaya a dit, que Asom Anikra Yom Ratson. Ça, c'est un jeûne qui est appelé un jour de Ed Ratson, d'accord? Ed Ratson, ça veut dire un moment propice. Comment on dit dans la... Chez nous, on dit ça. Ed Shahre Ratson Leipatear. C'est un moment Ratson, c'est un moment de volonté, c'est un moment propice. Pourquoi?
Le jeûne, c'est un cadeau,
exactement. D'accord? Alors, c'est un moment dans lequel Akadosh Baruch Hu s'ouvre à nous.
Ceux qui jeûnent et qui ne viennent pas à la synagogue et qui ne pensent pas spécialement à la sainteté du jour de Kippour, mais qui vont jeûner.
Ça ne change pas que c'est un jour propice pour eux aussi. Après, ils en font ce qu'ils veulent.
La discussion de savoir est-ce que c'est le fait de faire de Yom Kippour qui pardonne.
Ça, on en a parlé Shabbat.
C'est le jour qui pardonne.
On en a parlé Shabbat. Ouais. On a fait un cours sur Shabbat. Voilà. En tout cas, si on peut résumer en un mot aujourd'hui, le Ta'anit remplace le Corban. Et à quoi est servi le Corban? Le Corban, c'est uniquement pour réparer la faute. D'accord? Pas Teshuvah. Teshuvah, c'est déjà fait. C'est pour avoir la conscience tranquille et pour être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme avant. Alors bon, nous, on voit ça, on a envie de jeter l'éponge tout de suite, quoi. Ouais. D'accord? Là, on n'est même pas rentré dans des Averot. On n'est même pas rentré dans l'Averot. Dans des Averot classiques, quoi. Là, c'était dans des... Bon.
Qu'est-ce qu'il y aura
bien là-dessus? Attends, on va voir. N'inquiétez pas. D'accord? Non, après, on va voir. Bien sûr, monsieur. Pour le futur.
Excuse-moi pour se faire pardonner de ce qu'on a fait. Ou c'est un jour plus propice pour se dire, pour le futur, je prends la résolution.
C'est un jour plus propice pour le futur. La Teshuvah, c'est surtout la veille de Yom Kippour, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc après, dans les chapitres suivants, vous imaginez, on a encore beaucoup de choses à dire sur la Teshuvah. D'accord? D'abord, qu'est-ce qui se passe si une personne a fait plusieurs fois la même Avera? Et on aura des exemples d'Averot classiques, d'Averot classiques que des fois les gens peuvent faire tous les jours, comme Bitul Torah par exemple. D'accord? Ou bien Iyun Tfila. On aura des exemples très précis dans quel cas. Ah, dans quel cas Bitul Torah s'appelait une interdiction. Donc on aura des exemples. Il y aura aussi d'autres exemples plus classiques, d'accord? On verra Bezrat Hashem. Et donc qu'est-ce qui se passe si une personne a fait la même avéra plusieurs fois? Combien de fois il doit s'en pardonner? Et surtout, aujourd'hui, est-ce qu'on jeûne toujours? Est-ce qu'on peut remplacer ça par des demi-jeûnes? Est-ce qu'on peut remplacer ça par la tzedaka? Et si on n'a pas assez d'argent, etc. Ça Bezrat Hashem. Et combien il faut payer? Ça, Bezrat Hashem, on passera à la caisse. On passera à la caisse après les Chagim, Bezrat Hashem.
On va expliquer le processus de Kapara chez Akadosh Baruch Hu.
Le
En quoi le jeûne, en quoi le Corban fait que il est chéri, la personne est chérie.
En quoi, excuse-moi, encore une fois, en quoi?
En quoi le jeûne,
oui.
En quoi le corban, fait que chez Akadosh Baruch Hu, ça provoque
ça après on verra, oui. C'est par rapport au plaisir qu'on a pu éprouver. D'accord, mais on verra après.
Ah, bah, après, annuler le plaisir qu'on a.
Oh, oui, mais c'est pas, attention.
Ça, c'est pour le jeûne. Pourquoi on n'a pas plusieurs niveaux de korbanot dans ce cas-là, au même niveau que les jeûnes?
C'est pour ça que je dis que c'est pas si simple que ça. On verra après dans les détails pourquoi il y avait différentes catégories de sacrifices. Et en quoi, quand on offrait un animal, ça remplaçait. Alors, on verra tout ça, on verra dans les grattes sur le bédrat. Voilà. Ça n'est juste deux secondes. La semaine prochaine, bah, on peut faire quoi la semaine prochaine? Hein? Tout le monde est là? La semaine prochaine? Bon,
pourquoi il y aurait un spécialement...
Je sais pas. Et, oui.
Le fait qu'il y ait eu ces décisions d'autant de jeunes, etc.
Oui.
Elles ne s'appliquent pas à nous aujourd'hui.
Ah.
Ces délais ne s'appliquent plus à nous.
C'est la question que j'ai posée. Ça, on verra par la suite. Est-ce qu'on peut commuter? Est-ce qu'on peut échanger ces jeunes contre la Tzaka? Est-ce qu'on doit... D'abord, est-ce que c'est fait que pour les sadikim ou c'est fait pour nous aussi? Ça, on verra tout ça, Bédrat
Hachem. En quoi il a vu Zahid?
Pas seulement ça. Après, on verra, il y a Teshuvah Tata, Teshuvah Ila, tout ça, seulement Teshuvah Tata, la Teshuvah d'en bas. Après, il y a Teshuvah d'en haut qui est beaucoup plus élevée. Mais bon, Bédrat Hachem, on y arrive.
En quoi Zahid a vu que, quand il a vu la Merkava, en quoi il a vu que le jeûne, c'est pas un méthode de rapprocher les jeunes?
Parce que lui, c'est la meilleure personne pour savoir comment ça se passe en haut. Comment, c'est-à-dire quand on est bien et quand on n'est pas bien. Nous, on est là, bon, on suit en mode d'emploi, mais lui, il était là-bas.
Par exemple, il a vu des gens qui avaient fait, des jeunes boulangers qui étaient...
Non, lui-même, par rapport à lui.
Lui a fait des jeunes.
Oui, il a fait des jeunes. Alors lui-même, il sait, il était là-bas, il voit. Voilà. Il est du quartier. Donc il voit tout de suite. Il sait très bien à quoi il sert le jeûne.
Chez les aïe aussi, il n'y avait plus le corbanot.
Non, mais ça ne change pas.
Ça change.
Non. Parce que même à l'époque du corban, il y avait des gens qui faisaient quand même des jeunes pour être chirurgien de Kadosh Baruch Hu.
D'accord. Le jeûne ne remplace pas le corban. Le
Rabbi Elazar. Ezra. Oui. 10 générations plus tard, oui.
De Babylone, c'est-à-dire celui qui est...
Bien sûr, oui. Ezra a souffert, oui.
Excuse-moi, tu me dis qu'à l'époque de Eshaïa, il y avait le corban.
Oui.
Donc le jeûne dont parle Eshaïa ne remplace pas le corban.
Non, pas du tout.
Tu me le dis comme si c'était une évidence. Tu as dit le contraire.
Non. Je dis que nous, aujourd'hui, les jeunes remplacent les corbanotes. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque, on avait les corbanotes, on avait exclusivement des corbanotes. On pouvait avoir quelqu'un qui sentait que, à part le corban, il voulait rajouter. Il faut faire un jeûne. Pas de problème. C'est ce qu'on fait le jour du Yom Kippour. Le jeûne du Yom Kippour. On a déjà des corbanotes. Pourtant, on jeûne. C'est complément. Il n'y a pas de problème.
Là, on parle d'un jeûne public.
Oui, mais même un jeûne.
On avait dit que c'était des exceptions dont on ne pouvait pas en déduire.
On avait des jeunes. On avait des gens qui jeûnaient d'un Shabbat à l'autre, etc. C'était une manière de donner moins au matériel pour permettre au spirituel de plus se lever. Ça, c'est complémentaire, il n'y a pas de problème. Enfin, aujourd'hui, il nous reste que le jeûne.
Non, on est gris.
Tu vois ce que je veux dire? Il a dit qu'il y avait le corban, et aujourd'hui, qu'on n'a plus le corban, on a le jeûne. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les jeûnes.
Non, il a dit explicitement que le jeûne remplace le corban.
Aujourd'hui, le jeûne remplace le corban. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque où il y avait... Les corbanotes, il n'y avait pas de jeûne. C'est pas ça, il a pas dit. C'est pas
si, il a dit qu'il n'y avait que le jeûne public.
Non, il n'a pas dit ça.
Non, il n'a pas dit ça. Le seul jeûne qu'il a apporté effectivement jusqu'à
présent. Non, il n'a pas dit ça.
C'était le jeûne public.
Non, c'est pas parce qu'il y avait d'autres jeunes.
Il y avait des jeunes privés. Il y avait des jeunes personnels.
C'est toi qui en déduis. Il y a toute une maserhet qui s'appelle maserhet Ta'anit. Qu'on a pratiqué à l'époque du Beit HaMikdash quand il n'y avait pas de pluie par exemple, quand il n'y avait pas la pluie. D'accord? Quand il n'y avait pas la pluie, on devait jeûner Ta'anit Tzibour, qui devait durer un jour, deux jours, trois jours, même dix jours, même un mois. Il y a des halakhot particulières dans la Gemara Ta'anit qui parle de ce jeûne qu'on jeûnait à l'époque du Beit HaMikdash. Pas de problème. Bien sûr.
Oui, non, mais je crois pas.
Est-ce que...